Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
Salut tout le monde, bienvenue dans l'Intégral Sport sur RMC. Programme un peu particulier en ce dernier week-end de trêve internationale avant le Mondial. RMC Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 se tourne dès aujourd'hui vers ce grand rendez-vous à 56 jours du coup d'envoi de la compétition. L'équipe de France dispute ce soir son dernier match avant son entrée en lice, ce sera le 22 novembre prochain. Danemark-France ce soir 20h45 en direct en intégralité sur RMC. On sera avec Jean Rességuet dans un instant pour les dernières infos. Et puis on va commencer à se projeter dans la tête de Didier Deschamps avec vous, les auditeurs. On vous attend pour participer à nos débats. Qui a déjà son billet? Qui peut en rêver? Que peut-on espérer? Que faut-il redouter? Vous venez de donner votre avis au 32-16. On va parler de nos trois adversaires du premier tour. Le tout en compagnie de Manu Amoros. Salut Manu.
Salut Simon, bonjour à tous.
Et oui, vainqueur de la Ligue des Champions 93, 82 sélections en équipe de France, 4e du Ballon d'Or 1986 et désormais membre éminent de notre Dream Team RMC. Comment ça va?
Ça va très bien, merci. Avec le soleil en plus, tu vois, c'est magnifique.
Bon, et bien t'es là pour accompagner les auditeurs, participer à nos débats. On est ensemble en direct jusqu'à 15h, à 56 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Je vous le disais, RMC se projette déjà vers le Mondial 2022 et ça commence dans l'Intégral Sport qui démarre tout de suite sur RMC. Dans un instant, Jeannot Rességuet qui sera au commentaire de cette rencontre ce soir, Danemark-France 20h45, nous retrouvera, on aura avec lui les dernières tendances, les dernières infos sur la compo notamment. Et puis on va se demander avec vous, les auditeurs qu'on attend au 32-16, qui a déjà son billet. On savait qu'il y avait des cascades de blessures, beaucoup de forfaits dans cette équipe de France. Quels sont les enseignements finalement qu'on peut retirer de ce rassemblement? Qui peut avoir marqué des points? Qui peut en avoir perdu? Je vous rappelle qu'à 13h40, on aura du live évidemment, hein, c'est la promesse sur RMC, on ne manque rien, les championnats du monde d'aviron, ça se passe en République tchèque. Hugo Boucheron et Mathieu Androdias en finale du 2 de couple. Et on espère évidemment une victoire française. Mais avant ça, comme promis, projection sur ce Danemark France ce soir 20h45. C'est le dernier match, on a du mal à le croire, des Bleus avant la Coupe du Monde. Bon, ça compte officiellement pour une Ligue des Nations dont la France n'a plus rien à attendre. Manu, qu'est-ce que tu attends de cette rencontre? Est-ce qu'elle va être riche en enseignements pour Didier Deschamps?
Ben oui, déjà avait l'affront du match aller puisque les Français avaient perdu 2-1. Et puis après, il y a encore peut-être des places à gagner pour aller à cette Coupe du Monde. Donc oui, il y a beaucoup d'intérêt pour certains joueurs qui vont être présents là aujourd'hui titulaires pour pouvoir montrer à Didier Deschamps qu'ils peuvent aussi être du voyage.
Bon, on va évidemment en parler avec toi, avec Jeannot dans un instant. On sera également avec un spécialiste du football danois et pour savoir si ces Danois vont la jouer à fond aussi ce soir, hein, parce que on rappelle, hein, on se retrouve en Coupe du Monde. Peut-être que les deux sélectionneurs n'ont pas l'intention de dévoiler toutes leurs cartes. Mais avant ça, Manu, c'est la première fois qu'on t'entend à l'antenne depuis ce France-Autriche. Cette victoire de 0 des Bleus, des buts de nos attaquants, un clean sheet. Soirée quasi parfaite, surtout vu le contexte qui entourait cette rencontre, notamment la cascade de blessés, on le rappelle.
Oui, c'est un peu dommage, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. L'enchaînement des matchs n'est pas facile pour les joueurs, et puis bon, après au niveau des préparations, donc il faut se donner à 100% à chaque match, et malheureusement on risque la blessure. Mais je pense qu'on a vu quand même un superbe match jeudi soir, et surtout l'entente Mbappé-Giroud qui a été très bonne, et même Mbappé le disait après match, son entente est et son positionnement était très convaincant pour lui parce que il aime bien se retrouver avec un joueur fixe. Donc voilà, ça laisse beaucoup de perspectives éventuellement pour la Coupe du Monde en fonction des joueurs que Didier Deschamps va sélectionner.
Et surtout au vu du marasme hein, qui entourait la préparation de cette rencontre, on se disait tous ces blessés, comment va-t-on faire pour préparer cette Coupe du Monde
mais, et effectivement... mais Simon, malheureusement dans le football comme dans la lutte, on peut se faire mal. Donc il y a des joueurs qui attendent entre guillemets que certains se fassent mal pour que le sélectionneur les prenne et qu'ils montrent leur valeur aussi. Malheureusement, ça fait partie du métier aussi.
Et du coup, quelques bons enseignements tirés, on en est sûr, par le sélectionneur Didier Deschamps. Danemark-France, je le disais, 20h45 ce soir, évidemment, à suivre en direct en intégralité sur RMC, avec évidemment Jeannot Rességuier au commentaire. Salut Jeannot.
Salut Jeannot.
Bonjour Simon, salut Manu.
Jeannot, on le disait à l'instant avec Manu, hein, c'est même pas une question, mais c'est un état de fait qui engendre à lui seul des conséquences. Dernière occasion ce soir pour Didier Deschamps de voir ses joueurs en match avant le Mondial.
Oui, après, en plus avec un match en jeu, hein, puisque bon, le Danemark joue la qualification pour la finale à 4 avec un point de retard sur la Croatie, qui la Croatie joue en Autriche et l'Autriche qui va faire comme l'équipe de France, tenter de se maintenir dans cette Ligue 1. Donc il y a un vrai défi, il y a un vrai objectif, c'est-à-dire gagner ici au Danemark pour rester maître de son destin et peu importe ce qui se passera entre l'Autriche et la Croatie, ça c'est le premier point. Et puis oui, c'est la dernière escale avant Doha, donc ça veut dire aussi que c'est une occasion au regard de tous ces blessés, 15-16 au total si on rajoute les deux derniers et on y met peut-être à la limite l'incertitude de Dembélé par rapport à ce soir puisqu'il s'est entraîné à part avec cette douleur au mollet pour le Barcelonais. Donc voilà, tous ces pépins, tous ces forfaits amènent Didier Deschamps à modifier son équipe. Ça a déjà été le cas jeudi soir, il va le faire encore ce soir et donc ça lui permet de ce fait de voir quelques joueurs et peut-être aussi dans la perspective d'une décision finale autour du 9-10 novembre prochain, quand il sera décidé de faire une liste de 23, 24, 25, 26, puisqu'il peut aller jusqu'à 26, avec des joueurs sur la feuille de match, mais il n'ira certainement pas jusqu'à 26, parce que il aime pas trop ce chiffre-là, il aime pas trop entasser les joueurs, donc oui, ça va lui permettre de voir quelques joueurs et de savoir s'il peut, on va dire, compter sur une nouvelle génération.
Eh oui, 26, c'est 2 fois 13. Il a été interrogé, évidemment, hier, le sélectionneur en conférence de presse. Et il a, évidemment, annoncé qu'il y aurait quand même quelques petits changements par rapport à l'équipe qui a débuté face à l'Autriche.
J'amènerai des changements, je vous dis sincèrement. J'ai pas décidé, je déciderai pas ce soir parce que j'ai pas toutes les données. J'aurai le retour... par rapport à l'aspect médical et puis pour échanger avec les joueurs aussi, avoir leur ressenti avec l'enchaînement. Il y a 3 jours, je vais pas changer pour changer, il y aura des changements, je vais pas vous dire combien, mais l'objectif reste le même, on est là dans un objectif de performance.
Donc évidemment, je déciderai ce soir, vous l'avez compris, c'était hier soir, évidemment. Jeannot, toi, l'insider, l'homme qui suit les Bleus, quels seront ces changements ? À quoi faut-il s'attendre ? Tu as déjà parlé de Dembélé, mais bon, c'est...
Je vais pas être affirmatif parce que de toute façon il n'y a pas eu de mise en place hier soir, qu'il a fait une séance avec des chasubles sur lesquels on ne peut strictement rien retenir, pas même une seule association. Des changements, ça veut dire que déjà il nous a confirmé qu'Areola serait gardien de but. Ça par rapport à, on va dire, à l'équipe de départ, hein, puisque Maignan s'est blessé, il est entré à la 46e minute, l'ancien Parisien. Varane, capitaine, entouré vraisemblablement de Badiachil, qui lui va continuer. Ça, c'est un petit peu une façon de parler le Deschamps, comme dirait Jérôme Rotten, dans la discussion qu'on a eue en conférence de presse avec lui. On a un peu compris qu'il allait très certainement aligner une nouvelle fois Badiachil. Alors, c'est pas parce que c'est le seul gaucher de la défense, mais parce qu'il a envie de le revoir dans des circonstances différentes, avec une adversité, on va dire, un petit peu plus solide, même si on en reparlera. Les Danois sont quand même privés de joueurs dans le secteur offensif, et notamment Cornelius, le double buteur du match aller. Après, Saliba ou Upamecano pour ce qui est du troisième défenseur axial, puisqu'il semble-t-il il va rester dans ce système-là. Pavard dans le couloir droit, ça paraît quelque chose d'évident, puisque rappelez-vous sur la dernière journée de championnat avec le Bayern, il n'était pas rentré avec cette douleur et cette béquille qu'il avait subie lors du dernier match de Ligue des Champions. Donc Pavard dans le couloir droit, ça paraît, on va dire, évident. Mendy côté gauche, et peut-être la possibilité de faire rentrer, pourquoi pas, Truffert suivant le scénario du match. Le milieu de terrain, on avait évoqué l'association Fofana avec Tchouaméni pour le premier match de jeudi soir, parce que ce sont des joueurs qui, à eux deux, avaient plus de 100 matchs à Monaco, qui se connaissaient parfaitement bien, même si Tchouaméni, entre-temps, est parti au Real Madrid. Là, il va chercher aussi à consolider le côté association du milieu de terrain, et vraisemblablement, Tchouaméni va rester avec Camavinga, son nouveau partenaire au Real Madrid. Et après, au niveau du secteur offensif, Griezmann va enchaîner, parce que de toute façon, il a besoin de temps de jeu, et il ne joue pas assez avec l'Atlético Madrid, vous le savez, avec l'histoire du contrat liant l'Atlético sur le prêt avec Barcelone, et s'il joue plus, on va dire, d'une certaine limite dans la saison, il faut payer 40 millions d'euros, donc c'est la raison pour laquelle, en général, il rentre à la 62e minute, sauf le dernier match où il a été titulaire pour le déplacement face au Real. Mbappé, on va dire incontournable, et puis ensuite semble-t-il Nkunku à la place de Giroud, et Giroud qui rentrerait dans le contexte d'un match un peu compliqué et qui là servirait à Didier Deschamps de voir s'il amène Giroud à la Coupe du Monde, de quelle manière titulaire, il le sait, de quelle manière remplaçant, dans un profil différent, il peut-être permettre de débloquer le match. C'est peut-être ça qui donne envie à Deschamps de le voir dans d'autres circonstances et de le faire débuter sur le banc.
Manu, beaucoup d'infos dans ce que vient de nous dire Jeannot, beaucoup d'infos alors à confirmer effectivement lorsque la compo tombera. Qu'est-ce qui te donne le plus envie de réagir?
Généralement, Jeannot a des bonnes informations. Donc, je pense que la composition qu'il a donnée va pas être loin de celle-là. Mais c'est vrai que l'ensemble, de toute manière, a besoin de se montrer. Il y a certains joueurs comme Tchouaméni, comme Badi Achille, Camavinga aussi, ont besoin de rassurer, je pense, Didier Deschamps pour pouvoir être dans cette liste de l'équipe de France qui va partir pour la Coupe du Monde. Donc voilà, il y a des joueurs qui ont besoin de temps de jeu et bien sûr qu'il y a d'autres joueurs qui sont sûrs d'aller à la Coupe du Monde. Donc, il va falloir faire un mix de tout ça pour pouvoir que ces joueurs qui sont sûrs aident aussi les autres pour qu'il y ait une organisation et une performance de ces joueurs-là pour que Didier Deschamps les sélectionne.
Bon, moi, messieurs, je vous signe quand même que Tchouaméni, qu'il ait du temps de jeu ou pas ce soir, il sera à la Coupe du Monde. Mais bon.
Oui, moi aussi, je pense.
Ah, quand même. Manu. Est-ce que Deschamps n'a pas intérêt alors au-delà de donner du temps de jeu un petit peu et puis de faire sa revue d'effectifs, finalement de masquer un peu son jeu face à un adversaire qu'on le rappelle, on rencontrera lors du premier tour, ou alors est-ce que les absences et la distance qui nous sépare encore de cette rencontre rendent finalement des précautions comme ça inutiles?
Non, mais Didier Deschamps, il nous prend un peu pour des incompétents quelque part, parce que il connaît l'équipe qui va faire du buté déjà ce soir. Depuis hier, il y travaille dessus avec son staff. Il a sûrement dit à certains joueurs qu'ils allaient être titulaires ce soir. Donc il faut que pour lui et pour les joueurs soit performant. Bien sûr que on a envie que l'équipe de gagne ce soir pour que il y ait une dynamique et que c'est le dernier match que Didier Deschamps peut avoir ces joueurs-là. Il pourra voir d'autres matchs avec quand il va se déplacer dans les clubs pour voir certains joueurs, mais ce soir c'est quand même très très important pour certains joueurs.
13h16 sur RMC dans l'Intégral Sport, on se projette à 56 jours du coup d'envoi du Mondial 2022 au Qatar sur la rencontre, la dernière des Bleus avant le départ pour Doha, c'est ce soir à 20h45 Danemark, France à Copenhague. On est avec Jean Rességuet qui sera au commentaire de cette rencontre, avec Manu Amoros, membre de notre Dream Team. Jeannot, on l'a répété hein, avant ce rassemblement, cascade de forfaits chez les Bleus, seulement 6 champions du monde, je crois, 2018, qui sont dans le groupe cette semaine. On a appelé des remplaçants, de remplaçants, de remplaçants. Est-ce que certains absents, je te pose directement la question, risquent, selon toi, de rater le Mondial?
Alors, il ratera le mondial s'ils sont blessés, par exemple. Si Pogba n'est pas revenu à la compétition avant la mi-octobre, ou qu'il ne joue pas quelques matchs avant la liste définitive autour du 9-10 novembre. C'est juste une question d'accord entre la Fédération et TF1, le partenaire média pour que Didier Deschamps se présente dans le 20h et annonce la liste. Donc voilà, autour du 9-10 novembre prochain. Donc si d'ici là, Pogba n'a pas repris, il a été clair, hein, on lui a posé la question en conférence de presse à deux reprises, une fois lors de la présentation de la liste la semaine dernière et avant le match contre l'Autriche, il l'a répété. Donc voilà, lui, Paul Pogba, même si c'est un cadre, même si c'est quelqu'un qui est important dans le vestiaire, il semble-t-il, il le prendra si il peut le faire jouer. S'il peut jouer. Donc déjà, ça c'est un point important par rapport à un cadre. Et il a rappelé comme exemple Raphaël Varane, souvenez-vous, avant l'Euro, qui se blesse. L'Euro débute à peine que Varane aurait pu finalement être dans la liste et finalement il l'a pas pris. Donc ça fait partie d'un cas de figure particulier. Et pourtant on parle à l'époque déjà de Varane, cadre de l'équipe de France. Ils étaient pas certes champions du monde, mais cadre de l'équipe de France. Après, s'il y a pas de blessure, Lloris il sera là. S'il y a pas de blessure, Kanté sera dans la liste. Je rajoute Benzema, je rajoute Rabiot. Enfin voilà, dans la liste de base de 23, ceux qui sont absents aujourd'hui, s'ils sont pas blessés, ils seront.
Personne ne
Après, il y aura encore des possibilités de gagner des places. Si tu restes sur une liste de 23, t'as, allez, on va dire, quelques incertitudes. Une au milieu, une en attaque ou deux, une en défense. Tout dépend de l'équilibre de défenseur, milieu et attaquant que fera Didier Deschamps. Mais si on reste sur la base d'une liste de 23, allez, il y a trois places à gagner. Si on est sur une liste légèrement élargie, ce que je pense, et ça n'engage que moi, de 24, peut-être 25, mais je pense plutôt 24, tu auras un quatrième joueur qui aura la possibilité de s'intégrer. Et peut-être que là-dedans, tu auras des joueurs qui sont là. Et comme tu dis, des remplaçants. Fofana, Badiachil sont des joueurs qui ont été appelés parce qu'il y a eu des forfaits. Je pense à Truffert aussi. Je pense à Colomouani. Donc tous ces joueurs-là ont une carte à jouer parce que, encore une fois, et j'insiste souvent là-dessus, on est sur une compétition en hiver, sur un calendrier resserré, et cette Ligue des Champions où on est en train de caser, où on va caser 6 journées de Ligue des Champions, où traditionnellement on en case 3. Donc voilà, le calendrier est démentiel et le risque de blessure existe encore plus.
Manu,
il y a aussi des réservistes, voilà. Jeannot, parce qu'il y a la liste, bien sûr, que Didier Deschamps va donner, ou le 9 ou le 10, et après il va y avoir quelques réservistes, puisqu'il y a quand même encore des matchs. S'il y a des blessures, il va piocher dans cette réserve.
Il a la possibilité, de toute façon, de faire des réservistes. Rien ne lui oblige de faire une liste de réservistes. Après, attention, hein, il y a que le poste de gardien de but qui peut être remplacé dans le cours de la compétition. En revanche, pour le joueur, c'est jusqu'à la veille du premier match des Bleus. Après, terminé. Donc c'est pour ça qu'il y aura la tentation d'avoir une liste de 24 ou 25 joueurs.
Ouais, et tu parlais aussi, Jeannot, de Paul Pogba. Avec les soucis qu'il a, autre que le football, tu penses qu'il va être en mesure, s'il récupère de sa blessure, mentalement, psychologiquement, d'être prêt pour pouvoir jouer une Coupe du Monde ?
Moi, je pense que si Deschamps le voit reprendre la compétition et voit qu'il a de belles sensations, ce qui se passe pour lui autour de lui, de sa famille, des soucis qu'il rencontre, je pense que ça, et Pogba et Deschamps peuvent en faire abstraction. Mais ça n'engage que moi. Je pense que la sélection de Pogba ne tiendra que de son état physique et de sa capacité à être compétitif.
Alors les soucis dont parlent Jeannot et Emmanuel Moros, précise aux auditeurs qui auraient vécu sur une autre planète ces dernières semaines, c'est bien évidemment les tentatives d'extorsion dont l'international français a été victime et au sujet desquels une enquête est toujours en cours. Messieurs, vous la voyez arriver, hein, vous l'attendiez, c'est la question qui va animer une bonne partie de nos débats jusqu'à l'annonce de la liste des Deschamps. Tu le sais, Jeannot, tu sais de qui je veux te parler. Ah, c'est celle de la présence d'Olivier Giroud. Il a marqué face à l'Autriche, il est bon avec Milan, indispensable pour certains, simple bouche-trou pour d'autres. Giroud ira-t-il au Mondial? Giroud doit-il aller au Mondial? Manu Amoros, et après la tendance avec Jeannot.
Bah écoute, moi j'ai tendance à dire oui, parce qu'il a porté tant énormément là quand même, quand même marqué 49 buts avec l'équipe de France, et chaque fois qu'il a joué, il a été bon. En plus, dernièrement, le dernier match contre l'Autriche, ce qu'a dit Mbappé en conférence de presse, ne peut que jouer pour lui, puisque Mbappé aime jouer avec un joueur fixe avec lui. Donc oui, moi je le vois, il n'y a pas de raison, même si Deschamps essaye de dire qu'il reste performant, qu'il faut qu'il joue, mais malheureusement il y en a d'autres aussi qui ne jouent pas et que Deschamps prend. Griezmann, c'est la même chose, s'il joue que des 30 minutes, 25 minutes dans son club, est-ce qu'il aura la capacité de le prendre ou pas de le prendre? Mais on sait que Griezmann, il va être de la partie. Donc oui, moi je milite pour que Giroud soit à la Coupe du Monde.
Et en tout cas, évidemment, tous les journalistes souhaitaient poser la question hier à Raphaël Varane et à Didier Deschamps. La réponse du capitaine français et du sélectionneur.
C'est évidemment un joueur très important pour le groupe. Il apporte son expérience, il apporte son calme et aussi son envie. Même s'il fait partie des plus âgés, il a cette envie comme un jeune de 18 ans qui arrive pour sa première sélection. Et ça, c'est vrai que c'est important. Il a un état d'esprit irréprochable. On connaît son parcours, on sait la force mentale qu'il a. Et donc, évidemment, ça a fait plaisir à tout le monde de le voir marquer, y compris au public. C'est quelqu'un qui est apprécié et respecté. Évidemment, on veut le voir le plus souvent possible avec le maillot bleu.
On entendra Didier Deschamps dans un instant, mais effectivement, après les propos élogieux de Kylian Mbappé, après la rencontre, Raphaël Varane, effectivement, on s'attendait pas à autre chose, Jeannot, certainement, mais bon, c'est un soutien qui, c'est des soutiens qui comptent quand même, hein, c'est des, ouais, des cadres qui apportent leur, oui, oui, leur soutien, leur affection à Giroud.
Alors moi ça me fait sourire, à Didier Deschamps pas du tout, et quand on l'a vu en conférence de presse hier, il a dit jamais un joueur ne viendra interférer le fait que je décide de prendre ou de ne pas prendre un autre joueur. C'est lui qui décide. Il veut être maître du temps. Et le temps compte par rapport, justement, à ce que je disais tout à l'heure, le calendrier chargé, l'accumulation de matchs de haut niveau. Quand il dit « je sais ce dont est capable de faire Olivier Giroud », c'est qu'il connaît ses qualités et qu'il a très certainement une idée derrière la tête. Il veut être le maître de la situation. Et être maître de la situation, ça veut dire, comme l'a dit Manu, et toi aussi Simon, de voir comment il peut être encore décisif avec l'AC Milan, comment il va être utilisé, est-ce qu'il sera utilisé comme un titulaire, comme un super sub, c'est ça. La vraie réponse, elle est là. Pas dans le fait de dire pourquoi il prenait pas Giroud. Ça paraît tellement évident quand on a un gars comme ça qui est à deux unités du record du meilleur buteur de l'équipe de France. Je sais que ça en fait sourire certains. Hein. Ça n'agace même d'autres qui disent mais. Attendez, vous vous plaisantez, on est en train de comparer Giroud au parcours d'Henri. Ben oui, mais les chiffres sont là. C'est peut-être pas des matchs officiels, c'est peut-être des matchs amicaux où il a marqué souvent, c'est peut-être des adversaires peut-être plus à la portée d'eux, mais on s'en fout. Les chiffres sont là. Donc aujourd'hui, Giroud, au-delà de ses performances et de ses statistiques, a un tempérament de gagneur. Et même dans la difficulté à Arsenal, à Chelsea, je le mets à un degré moindre à l'AC Milan, il a montré qu'il était capable d'apporter quelque chose à l'équipe de France. Donc si il continue sur ce rythme-là, je pense que pour le profil qu'il représente, certainement pas pour être un titulaire, il sera dans la liste élargie de Didier Deschamps. Mais ça n'engage que moi. Aujourd'hui, difficile de dire si Deschamps va le prendre. Je pense que même dans le staff de l'équipe de France, à part peut-être Guy Stéphane, avec lequel il échange beaucoup, ils ont évoqué le cas d'Olivier Giroud, mais je crois que la décision, elle sera prise à l'issue de la dernière journée avant la liste. Et avec le fait derrière, et pour lui et pour d'autres, que annonçant la liste autour du 9-10 novembre, il restera encore une journée et qu'il y aura encore la possibilité de voir un joueur se blesser. Donc, pour l'instant, il a en tout cas, sur ce qu'il a démontré face à l'Autriche, n'étant pas là en juin, il a démontré que quand on fait appel à lui, il est présent. Ça, c'est le principal. Après, vous affirmez qu'il sera là, Je peux pas le dire, mais de le démontrer comme je viens de le faire, ça me paraît quelque chose d'évident. Quoi.
Tu parlais de chiffres à l'instant, Jeannot, Thierry Henry, Antoine Griezmann, Michel Platini, Karim Benzema, David Trezeguet, Zinedine Zidane, Jules Fontaine, Jean-Pierre Papin et désormais Kylian Mbappé. Ça c'est la compagnie qui entoure Olivier Giroud dans le classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France.
Mais là t'as chiffré des gars à 30 buts. Mbappé bon, est pas très loin, est à 28. Mais voilà, ça veut dire que le garçon a pas volé ce qu'il a réalisé.
Quoi. Ouais, tant qu'ils aient, c'est tout à fait mon point de vue. Et là, je sors un petit peu de mon couloir d'animateur. Je me permets de rappeler qu'aucun des joueurs que je viens de citer, et notamment ceux qui ont déjà pris leur retraite, ont ne se posé la question de leur présence dans une grande compétition tant qu'ils ont été performants en club, ce qui est le cas d'Olivier Giroud. Donc il est, je trouve, parfois victime d'un faux procès. On écoute Didier Deschamps.
En 2018, on est champion du monde, il ne met pas un but. Ouais, mais il a été important, il a pesé dans le jeu.
Exactement,
dans le groupe,
exactement. Souvenez-vous, Luca Toni en 2006, lorsque les Italiens sont champions du monde, il marque un seul but dans le tournoi et pourtant il est de loin le meilleur avant-centre de cette compétition et il avait marqué la compétition de son talent, de son empreinte. Didier Deschamps, interrogé évidemment hier sur le cas Olivier Giroud.
Il y a beaucoup de soutien, Olivier. Tant mieux parce qu'il le mérite. Je n'implique pas, je n'ai jamais impliqué, je n'impliquerai jamais les joueurs dans la sélection ou la non-sélection d'un joueur. C'est pas leur rôle. Tant mieux pour Olivier, si seulement, et je lui en ai parlé, à certaines périodes, il aurait pu avoir ce soutien-là. Voilà, Olivier, à lui de maintenir. Je sais ce qu'il est capable de faire. Il a des affinités avec certains joueurs plus que d'autres, mais bon, il a toujours eu un esprit collectif. Réponse, début novembre.
Voilà, du Didier Deschamps, pur jus,
ouais, Jeannot. Mais bon, Simon, ouais, par contre, tu vois, Didier Deschamps, il envoie un ultimatum à Giroud, et il faut qu'il soit bon avec son club. Mais les autres, c'est la même chose. Ah bah. Il peut dire des autres aussi qu'il faut qu'ils soient performants avec leur club pour pouvoir venir à la Coupe du Monde. Et puis, Giroud, il peut être aussi dans un schéma tactique très intéressant. Benzema, il décroche régulièrement. On sait que c'est pas un joueur fixe. Donc ça peut apporter une solution supplémentaire.
Oui, et puis en plus dans le comparatif avec Benzema, je trouve que parfois on est un peu dans la caricature et je trouve que Giroud est capable aussi de venir proposer des solutions, de combiner et de
après messieurs, d'être très bon remis. Il y a quand même une logique mathématique, hein, le football se joue à 11 dans le secteur offensif aujourd'hui ou plutôt demain, ce sera Griezmann, Mbappé et Benzema. Il faudra en enlever un des trois pour mettre Giroud comme titulaire. Faudra peut-être mettre Giroud dans le cours d'un match à la place d'un des trois que je viens de citer pour changer le cours d'un match. Moi, je pense que dans l'esprit de Didier Deschamps, Giroud n'est plus vraiment un titulaire si Benzema et Mbappé sont en forme avec Griezmann. Il sera dans le profil d'un joueur, comme tu disais Manu, avec sa capacité à être dans la surface de réparation, son jeu de tête, d'être un joueur d'appui. Bref, toutes les qualités qu'il a démontrées encore jeudi dernier face à l'Autriche, il aura très certainement plus un rôle de remplaçant qu'un rôle de titulaire.
Et là-dessus, Jeannot et messieurs, je crois que tout le monde s'accorde. On est un petit peu pris par le temps. On aura
C'est dommage parce que on peut faire aussi une attaque avec Dembélé et Coman et Mbappé dans l'axe.
Ah bah évidemment, il y a d'autres solutions. On aura évidemment l'occasion sur RMC de reparler de la présence ou non d'Olivier Giroud. On scrutera un petit peu l'utilisation qu'en fera Didier Deschamps ce soir. Juste, Jeannot, un chiffre, la date, quand est-ce qu'on saura si Giroud et ses copains sont du voyage? La liste de Deschamps pour la Coupe du Monde, c'est quand?
9 ou 10 novembre. Pour l'instant, c'est les deux dates que nous avons, au milieu de semaine, avant la dernière journée de Ligue 1, pour être sur une base de championnat de France. Donc, la dernière journée, c'est le 13 novembre. Logiquement, entre le 9 et le 10 novembre prochain. Je vous dis, c'est simplement une discussion qui existe entre l'équipe de France, le sélectionneur et le partenaire média qui est TF1. C'est la tradition, c'est le journal de 20h. Oui, donc, voilà. Il suffit de trouver la bonne case.
Oui, bon, 9 ou 10 novembre. En tout cas, l'info est passée. Danemark-France, dernier match des Bleus avant la Coupe du Monde au Qatar 2022. Ce sera avec toi au commentaire ce soir, Jeannot, 20h45, du côté de Copenhague.
Salut messieurs, salut Olivier. Salut,
en intégralité sur RMC. Merci beaucoup, Jeannot. Manu Amoros, tu restes avec nous. Évidemment, Intégral Sport jusqu'à 15h. Dans un instant, on va revenir sur les polémiques, l'éventail des critiques faites autour de l'attribution et de l'organisation de cette Coupe du Monde. au Qatar. On sera avec Nicolas Pelletier dans un instant. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport revient tout de suite sur RMC.
Intégral Sport, Simon Dutin.
À 13h33, vous êtes bien sur RMC, c'est le retour de l'Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 15h en compagnie de Manu Amoros, notre membre de la Dream Team. Et puis à 56 jours du coup d'envoi du Mondial 2022 au Qatar, on se projette aujourd'hui sur RMC, sur la compétition, sur l'équipe de France qui, rappelons-le, dispute son dernier match avant justement le Mondial. C'est ce soir à 20h45 face au Danemark, adversaire que les Bleus retrouveront lors du premier tour. On sera d'ailleurs à partir de 14h avec un spécialiste du football danois pour nous aider un petit peu à décrypter les contours de l'effectif et de l'équipe, l'opposition qui attend les Bleus ce soir. Vous le savez, la promesse, l'une des promesses de RMC, c'est d'être partout où le sport en live se joue et où les Français ont une chance de briller. 13h39 pour être très précis, on ira en République tchèque avec Morgan Mori pour suivre les championnats du monde d'aviron avec deux Français qui ont des chances de remporter la médaille d'or, Hugo Boucheron et Mathieu Androdias, en finale du 2-2 couple. Mais pour l'instant, à 56 jours, je vous le disais, du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, jamais peut-être le choix d'un pays hôte n'a créé autant de polémiques. Vous savez que le petit émirat mise sur le sport comme moyen de rayonnement international. De nombreuses voix s'élèvent à la fois contre le choix qui avait été fait par la FIFA, les conditions d'accueil de la compétition et puis les procédés utilisés par le Qatar pour se montrer sous son meilleur jour aux yeux du monde en fin d'année. Alors avec nous pour en parler, on accueille Nicolas Pelletier de la rédaction RMC Sport. Salut Nico.
Salut Simon, salut à tous.
Salut Nico.
Salut Manu.
Manu, on sait que tu as beaucoup de choses à dire sur le sujet.
Il y a beaucoup de choses, oui.
Alors, mais avant ça, on va faire avec toi, Nicolas, un petit tour d'horizon, un petit éventail des critiques formulées à l'encontre du Qatar. Elles sont nombreuses, elles sont variées.
Alors au début, on a eu déjà cette semaine, c'était un moment important cette semaine parce qu'on a eu la première prise de parole de la Fédération au sujet des critiques sur les droits de l'homme au Qatar et la première prise de parole de Raphaël Varane, on va l'entendre dans un instant. Mais c'était un moment très important parce que c'est la première fois où la Fédération a publié un communiqué. Amnesty International, qui est très engagé dans ce dossier, le réclamait depuis plusieurs mois. Ils avaient eu une rencontre au début de l'année avec la Fédération et depuis, il n'y avait pas eu de signe de vie, entre guillemets, de la Fédération à ce sujet, au sujet des droits de l'homme au Qatar. Et donc, ce communiqué qui a été publié cette semaine, après un nouveau coup de pression d'Amnesty, ils avaient même dit qu'ils allaient supporter l'équipe du Danemark ce soir. Le Danemark qui est un peu l'exemple dans ce domaine. Les Danois vont porter, par exemple, des maillots pour soutenir les travailleurs migrants au Qatar lors des entraînements au Qatar pendant la Coupe du Monde. Donc ça sera un moment très important, ça va être un moment très médiatique au Qatar autour de la sélection danoise. Et donc ce communiqué de la Fédération qui dit « participer ne signifie pas fermer les yeux et cautionner ». Donc ça prouve aussi que certaines personnes prennent conscience à la Fédération des droits de l'homme au Qatar. On le rappelle, c'est la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a mis un coup de pression sur la Fédération pour aussi prendre la parole.
Voilà, la ministre des Sports qui a peut-être envoyé un petit message dans les couloirs de la Fédération, parce que pour symboliser justement à ce qu'on pourrait qualifier de réveil de notre Fédération française de football, hier, comme par hasard, Raphaël Varane s'est exprimé sur la question en conférence de presse.
C'est très bien de poser la question. C'est évidemment un sujet qui est sensible, qui est grave. On sait ce qui se dit. Évidemment, en tant que joueur, on hérite un peu d'une situation, on va dire, avec une décision qui a été prise il y a plus de 12 ans maintenant. Évidemment, on suit ce qui se passe. Il y a eu un communiqué de fait. Chacun a sa place, chacun son rôle. La Fédé a communiqué dessus. Je pense que chacun a un rôle à jouer. Je pense que c'est important de parler de certains sujets, les droits de l'homme, toutes les discriminations. C'est des sujets très graves, très importants. Et le fait d'en parler, de mettre la lumière aussi dessus, le fait de porter, par exemple, le brassard que j'ai porté lors du dernier match, c'est aussi des symboles forts. La Fédé a été claire sur le sujet.
Alors le brassard, c'est un brassard One Love, qui,
arc-en-ciel, ouais.
sans reprendre vraiment les teintes du drapeau de la communauté LGBT, est un drapeau reprend.
Il va bien y ressembler quand même.
Évoque la lutte contre les discriminations.
Ce qui est important, il faudra voir si ce brassard est porté lors de la Coupe du Monde au Qatar.
Huit fédérations, dont la fédération anglaise, ont communiqué leur intention d'utiliser ce brassard autour du bras de leur capitaine. La FIFA n'a pas encore
statué dessus. Ouais.
Voilà, et se réserve le droit même de sanctionner.
Il y a aussi un élément qui est important parce que souvent les personnes qui parlent de ça, mais même les gens pensent que Amnesty International, qui est très engagé là-dedans, demande le boycott de la compétition. Ils ne demandent pas le boycott de la compétition, ils demandent de la visibilité, c'est-à-dire que les joueurs prennent position sur ce sujet ou alors que les fédérations ou la FIFA apportent son soutien financier à un fonds d'aide pour les victimes.
Manu, on était un petit peu, c'est vrai, un petit peu étonné du silence de notre fédération sur cette question.
Le silence. Vous savez, si la fédération est obligée de répondre à tout le monde, elle s'en sort plus. Et puis, il y a tellement de cas qui se passent dans le monde que c'est vrai que c'est important. C'est à travers la plus grosse compétition du monde, qui est la Coupe du Monde. Donc, il y en a qui profitent pour se mettre en lumière. Mais il fallait y réfléchir 12 ans en arrière quand on a évoqué et quand on a donné la Coupe du Monde au Qatar. Il fallait réfléchir avant. La FIFA n'a pas réfléchi. Ceux qui ont voté non plus, ils ont donné parce que le Qatar a d'immenses ressources financières pour pouvoir récupérer ça. Et quelque part, si tu veux, l'argent, ils l'ont. Ils vont payer cash cette Coupe du Monde. Ça va leur coûter des milliards et des milliards. Je dirais, ils s'en foutent complètement. Nous, on construit du village olympique pour les Jeux Olympiques à 2024. Ça va nous coûter un maximum, mais c'est le contribuable qui va payer. Donc, il y a plein de discussions là-dessus. Et c'est vrai que le Qatar n'est pas un pays très fréquentable, mais on leur a donné. Essayons de faire que ça se passe très bien. Bien sûr que y a de quoi discuter, la construction, les migrants, les gens qui viennent travailler. Mais s'ils viennent travailler, c'est qu'ils ont besoin d'argent. Qu'ils ont été certains pour la plupart payés et qu'ils envoient l'argent dans leur pays et ils font vivre plusieurs familles. Il faut pas oublier non plus que les constructions qu'on a nous en France pour le village olympique, il y a des blessés et il y a des morts aussi, mais on en parle beaucoup moins. C'est tout un amalgame qui rentre oui, là-dedans en ligne de compte et que c'est compliqué aussi. Hein.
Un petit peu de mesure selon toi. On va continuer d'en parler un instant avec David qui a fait le 32-16 et qui, je crois, est un petit peu du même avis que toi, Manu. Mais avant ça, Morgan Mori, direction la République tchèque. Deux Français qui ont une chance de devenir champion du monde d'aviron.
Oui, les Lyonnais, Mathieu Androdias et Hugo Boucheron, ils sont déjà champions du monde, double champion d'Europe, champion olympique en 2020. Les Lyonnais sont sur ce plan d'eau de Rasice en République tchèque. Une minute de course, c'est environ 6 minutes, une course de couple en aviron. Excellent départ des Français. Les Espagnols étaient partis les plus forts. Les Espagnols, meilleur temps des demi-finales devant les Français. C'est le premier pointage aux 500 mètres. C'est le quart de cette course. Les Français vont passer en tête après le quart de course. 1 minute 29 pour l'instant devant les Australiens qui sont à 1 seconde. Les Espagnols juste derrière. On va guetter le bateau qui a la ligne d'eau numéro 6. Ce sont les doubles champions olympiques. Les Croates, les frères Sinković qui ont été champions olympiques en 2016 dans un bateau. En 2020 dans une autre embarcation et qui sont revenus dans leur embarcation d'origine. Mais gros départ des Français après 500 mètres. Mais on le répète, Simon Laviron, ça se joue après les 1000 mètres quand les poumons et les bras commencent à brûler. En tout cas, bon départ de Mathieu Androdias et Hugo Boucheron.
Eh bien, on revient te voir, Morgan, pour suivre la fin de cette course quand les poumons et les bras commenceront à brûler. Hugo Boucheron, Mathieu Androdias, je vais y arriver, en finale du couple en République tchèque. On revient en attendant quelques instants sur les polémiques, on le rappelle, qui entourent l'organisation par le Qatar de ce mondial 2022. Mais... Effectivement, il est un peu tard pour...
Simon, je peux rajouter un truc?
Ouais, Manu, très rapidement, parce qu'on accueille David derrière.
Ouais. Tu sais, ça a été de tout temps que ces pays du Moyen-Orient profitent des gens immigrants qui viennent travailler pour eux dans des conditions très difficiles. Moi, je prends un exemple, j'étais au Koweït comme entraîneur, et j'ai vécu ça en direct. Et les gens s'en plaignaient pas non plus, parce qu'ils allaient pour gagner de l'argent et pour renvoyer dans leur pays.
Oui. Effectivement.
Donc c'est de tout temps. On profite de la Coupe du Monde pour sortir ce pays-là en disant qu'on incrimine les droits de l'homme, de tout, de la répression. Bon, c'est compliqué, mais ça a toujours été. Pourquoi aujourd'hui?
Oui, alors effectivement, il y a un effet de loupe, comme tu le rappelais, sur un événement... Oui,
au Brésil, comme à Sochi, comme partout. C'est comme en Russie il y a 4 ans, c'est comme au Brésil en 2014. C'est comme les Jeux de Sochi, les Jeux de Pékin, c'est pareil pour toutes les grandes compètes.
On va demander son avis à David qui a fait le 32-16. Bonjour David, bienvenue sur RMC.
Salut David. Ça va?
Ça va très bien. Et toi, t'es remonté contre le Qatar, toi aussi tu partages toutes les critiques. Bon, difficile de ne pas les partager, mais quel est ton avis? Est-ce que tu penses qu'il faut rester mesuré tout de même?
Disons que en fin de compte, c'est un peu se voiler la face, se boucher le nez et puis se cacher les yeux. C'était bien avant qu'il fallait y penser. c'est pas maintenant qu'il faut soulever la polémique. Alors effectivement, il faut en parler parce que c'est très important, comme disait Manu tout à l'heure. Mais c'était bien avant qu'il fallait s'en inquiéter. Il savait très bien ce qui allait se passer, c'était joué d'avance. Seulement maintenant, c'est l'argent qui prime en premier. Et voilà, donc c'est pas maintenant qu'il faut soulever la polémique de ça, boycotter ou pas boycotter. Ça avancera pas maintenant plus que donc, ça.
Donc pour résumer, soit on n'attribuait pas la Coupe du Monde au Qatar, mais maintenant qu'elle est attribuée au Qatar, il faut pas... Il ne faut pas faire les innocents et faire semblant de découvrir.
Exactement. Mais comme je l'ai dit, c'est l'argent qui prime. Ils ont touché de l'argent. Mmh. Ils vont retoucher de l'argent encore après derrière au niveau de la FIFA et tout. Donc, c'est là où il y a eu un souci qui a été fait dès le départ.
Ah, si la FIFA prenait des décisions philanthropiques, ça se saurait, mon cher David. Merci en tout cas d'être venu nous donner ton avis dans l'Intégrasport, avis que tu partages avec Manu Amoros. Vous le savez, c'est la promesse de RMC. On est partout où il y a du sport en live. Morgan Mori, championnat du monde d'aviron.
Les 500 derniers mètres, les Français sont en tête. Ils ont 11 mètres d'avance sur les bateaux australiens et espagnols. Les Espagnols qui ont été le meilleur temps des demi-finales, mais ils avaient bien caché leur jeu. Les Français sont à pleine puissance sur le bassin de Razice. Alors oui, Mathieu Androdias est en train de serrer les dents, mais ça avance fort pour les Français. Encore 45 minutes de course. Les Espagnols et les Australiens ont une meilleure cadence d'aviron pour l'instant. Deux coups de plus que les Français à la minute. Mais encore 250 mètres, ça devrait le faire pour les Français. Ne pas s'effondrer, ne pas craquer, ça devient extrêmement dur. Ils ont pratiquement une longueur d'avance sur le bateau. Encore 30 secondes pour les Français. C'est la médaille d'or qui est en train de se dessiner. Ils sont montés dans le hors-bord blanc. Les tricolores Mathieu Androdias et Hugo Boucheron. Il y a eu un coup de mou après le titre olympique, la dépression d'Hugo Boucheron. Ils sont repartis à 9 et ils sont extrêmement forts sur ce bassin de chaque. Attention, la remontée des Espagnols qui sont en train d'aborder le bateau français. Encore 150 mètres environ, c'est mort pour les Croates qui sont plus loin. Les Français jouent l'or ou l'argent. Les Espagnols qui sont en train de remonter toujours sur les Français, ils arrivent peut-être à la moitié du bateau des tricolores, mais ils sont toujours devant. Androdias et Boucheron encore appuyés sur les avirons, terminés fort sur ce bassin. Aller chercher la première médaille pour les Français. Ils sont devant, ils vont être champions du monde. Champions du monde, bleu, blanc, rouge, Mathieu Androdias. Hugo Boucheron, double champion d'Europe, champion du monde 2018, champion olympique 2020 et la deuxième couronne mondiale pour ces Français, les rois du bassin de Chèque, ce sont les Lyonnais Mathieu Androdias et Hugo Boucheron au bout de l'effort, environ 6 minutes et 9 secondes de course pour monter sur le toit du monde.
Exceptionnel nos Français, champion du monde de deux couples en République Tchèque. Exceptionnel Morgan Mori, hein, c'est un métier, hein, commenter les victoires françaises comme ça. Merci beaucoup, mon cher Morgan, de nous avoir fait vivre ce grand moment, hein, ce qui s'est transformé en grand moment de sport en live. Vous le savez, vous ne ratez rien des grands événements et du sport en live. C'est l'une des promesses de RMC dans l'Intégrasport. Évidemment, on était obligé de faire une petite place à cet événement. Bravo Hugo Boucheron, bravo Mathieu Androdias, champion du monde donc de couple en République Tchèque. Merci beaucoup Nicolas. Merci, d'être descendu dans le studio de l'Intégrasport. À très vite sur l'antenne de RMC. On reparlera évidemment des critiques liées à l'organisation et aux mesures prises par le Qatar pour tenter d'organiser ce grand événement. Dans un instant dans l'Intégrasport, on va revenir sur ce qui était aussi l'un des grands événements de ce dimanche, la course en ligne des championnats du monde de cyclisme masculin et la victoire du Belge Remco Evenepoel. C'était ce matin, vous l'avez vécu en direct sur RMC. Arnaud Souk, Cyril Guimard dans un instant pour en parler avec nous. Vous ne bougez pas, vous restez bien sur RMC.
RMC Intégral Sport, Simon Dutin.
À 13h49, vous êtes bien sûr à RMC Intégral Sport en direct jusqu'à 15h en compagnie aujourd'hui de Manu Amoros qui vous accompagne durant ces 2 heures. À 56 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, on se projette aujourd'hui sur RMC sur ce grand événement autour évidemment de la rencontre la dernière des Bleus avant leur entrée en lice dans la compétition, ce Danemark-France ce soir 20h45 à vivre en direct sur RMC. Petite parenthèse évidemment dans l'Intégrasport sur ce qui était un des grands événements sportifs du week-end, la course en ligne masculine des championnats du monde de cyclisme et la victoire, mon cher Arnaud Souk, on l'a vécu avec toi en direct sur RMC. Merci d'être passé
avec plaisir.
Nous en parler dans l'Intégrasport de Remco Evenepoel. J'accueille juste avant de te donner la parole Cyril Guimard, notre druide qui va nous livrer son œil aguerri, je crois, un petit peu critique sur certaines tactiques employées aujourd'hui. Mais avant ça, c'est la victoire d'un jeune loup, mon cher Arnaud.
Oui, la victoire de Remco Evenepoel, c'est la chronique d'un sacre qui était annoncé tôt ou tard. Voilà, dans sa carrière, on imaginait que Remco Evenepoel soit capable de devenir champion du monde. Il l'avait dit, lui, l'an passé, que si la tactique belge ne l'avait pas compromis, il aurait eu les jambes pour être champion du monde à domicile à Louvain l'an passé. Ça n'avait pas été le cas. Ça avait été pour Julien Alaphilippe pour la deuxième année consécutive. Toujours est-il que donc Remco Evenepoel, voilà, vient marquer le point final. On imagine, ou quasi final, à une année 2022 absolument exceptionnelle. Il n'a que 22 ans, Remco Evenepoel. Il est né en janvier 2000 et pourtant cette année, il a gagné Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques, l'un des cinq monuments. Il a gagné la Classica Saint-Sébastien. Il a gagné le Tour d'Espagne avec à la clé deux victoires d'étape et donc il devient champion du monde. Bref, vous avez compris, c'est juste un crack auquel on a affaire. On le surnomme le nouveau cannibale ou le petit cannibale. Bon, certains aiment, certains n'aiment pas, mais il y a des comparaisons claires et nettes qui sont faites en Belgique avec évidemment la légende Eddy Merckx.
Cyril Guimard, bonjour donc.
Oui, bonjour, 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 bonjour à tous.
Très rapidement, Cyril, parce que je le disais, on va revenir avec toi sur le déroulé de la course et tu vas nous donner ton œil, hein, évidemment, de directeur sportif, de patron d'équipe.
Non, je ne donne pas mon œil. J'en ai déjà plus que oui, alors, un gardes, qui fonctionne
oui,
bien.
Tu livreras,
donc je ne vais pas vous donner le deuxième.
Oui, merci. Merci pour la précision. Avant de t'entendre sur le déroulé de la course, un mot sur ce jeune Belge, parce qu'on parlait énormément de Wout van Aert, le grand public connaissait Wout van Aert. Qu'est-ce que t'inspire la fin de saison de ce Remco Evenepoel?
Evenepoel, je le connais depuis junior. Et pourquoi depuis junior? Parce qu'il est venu gagner la Surmeter en Bretagne, le trophée Centre Morbihan. Ses adversaires l'ont vu le premier jour au départ et le dernier jour sur le podium. C'est à l'époque où il gagnait les championnats d'Europe avec 10 minutes d'avance. Donc c'est un coureur qui aujourd'hui est champion du monde, qui aurait peut-être pu l'être déjà l'an dernier et peut-être l'année précédente. C'est pour moi aujourd'hui le coureur le plus doué, celui qui a le plus de talent. Et n'oublions pas qu'à 22 ans, si vous regardez son palmarès, il y a pratiquement un trou d'une année. Et pourquoi? Parce que il a raté un virage dans une descente du Tour de Lombardie. Et là, il a fait un saut à l'élastique, mais sans l'élastique. Et donc, il s'est retrouvé pendant 6 mois à l'hôpital, puis en rééducation. Donc, il a perdu un an. Vous imaginez son palmarès aujourd'hui, s'il n'avait pas eu cet arrêt d'un an, alors qu'il n'a que 22 ans. Donc, aujourd'hui, c'est... pour moi, le plus talentueux et la plus grande pépite qui existe dans le monde cycliste. Derrière, vous ajouterez Pogacar, Egan Bernal, Vingegaard. Bon, c'est un cran en dessous puisqu'il a déjà 24 ou 25 ans. Arnaud nous le précisera. Non, c'est vraiment le coureur le plus talentueux qui a le plus gros potentiel aujourd'hui. Et la façon dont il gagne à chaque fois ses grands succès, que ce soit Liège-Bastogne-Liège, ouais. Aujourd'hui le championnat du monde, ou Saint-Sébastien. C'est un coureur qui est capable de partir à 30, 35, 40 kilomètres de l'arrivée, de partir, de se mettre sur une trajectoire et personne ne peut aller le chercher.
C'est un petit peu sa marque de fabrique. En effet, il a écrasé cette course de tout son talent. Il gagne avec 2 minutes 21 d'avance sur un groupe de coureurs qui s'est disputé les deux dernières places du podium au sprint. Un sprint remporté par le Français Christophe Laporte qui termine donc deuxième de cette course en ligne des championnats du monde. Matthews, le local, on précise, ça se passait en Australie, à Wollongong. Matthews donc troisième. Christophe Laporte, deuxième après avoir réglé donc le groupe des poursuivants au sprint. On écoute le coureur français. Il n'avait pas compris qu'il sprintait pour une médaille.
Non, je ne savais pas. Ça a été un dernier kilomètre un peu fou. On a repris beaucoup de monde et on a passé les derniers groupes, je pense, à 300 mètres de la ligne. Donc, je savais que j'arrivais pour une place, mais je ne savais pas que j'arrivais pour la médaille d'argent. Et quand j'ai passé la ligne, j'ai vu seulement Remco. Et ouais, j'ai vu personne d'autre et on m'a dit que j'étais deuxième, donc c'était la bonne surprise.
C'est génial. Bon, il y en a qu'un qui est arrivé, donc visiblement je suis deuxième. Christophe Laporte, que vous retrouverez dans Bartoli Time, hein, votre nouveau show sur RMC, Marion Bartoli, Jean-Christophe Drouet, qui recevront donc le coureur français, deuxième de ces championnats du monde. Arnaud, tu avais quelque chose
à préciser? Oui, non. Alors Christophe Laporte ne le sait pas aussi pour une simple et bonne raison, c'est que sur toutes ces compétitions internationales avec maillot d'équipe nationale, il n'y a pas d'oreillette au championnat du monde. Et donc, il y a quand même des informations. Alors, ça ne veut pas dire qu'avec oreillette, certaines informations n'auraient pas pu échapper au staff de l'équipe de France. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que là, on ne savait pas. On ne savait pas qui y avait intercalé entre Remco Evenepoel et le peloton.
Alors justement, mon cher Cyril, sans oreillette, y avait-il moyen de battre Remco Evenepoel? Est-ce que finalement, il n'a pas profité de quelques erreurs tactiques?
Alors, d'abord, oreillette ou pas oreillette, il faut savoir que normalement, les oreillettes sont hors la loi. Il faut quand même le savoir, c'est interdit par le code de la route, c'est interdit par la loi, à tous les niveaux. Vous n'avez pas le droit d'avoir du téléphone au volant ou sur un deux roues.
Ouais, enfin, là, on est dans une course de cyclisme, Cyril.
On ne va pas revenir sur le sujet. Tu sais que d'avoir une communication permanente dans l'oreille est dangereux.
Mais oui, on ne parle pas du code de la route.
Je suis désolé. Est-ce qu'ici, il y avait eu les oreillettes ou pas les oreillettes? Est-ce que la course aurait été différente? Certainement.
C'était pour introduire ma question. La vraie question que je te pose, Cyril, c'est est-ce que finalement certains coureurs n'ont pas commis une erreur en emmenant Evenepoel dans une échappée? Voilà.
Bah, dans la question, il y a la réponse.
Je te remercie.
Oui, puisque c'est l'équipe de France qui relance. Qui remet en route pour durcir la course et on a quatre Français qui mais de façon tout à fait logique, tout à fait normale, ça c'était dans les plans de l'équipe de France, sauf qu'ils emmènent Evenepoel et qu'à un moment faut quand même se poser la question. Evenepoel, quand tu vois la facilité qu'il a, les chevaux qu'il y a sous le capot, tu sais que tu l'emmènes vers la victoire. Mais ceci dit, si on n'emmène pas Evenepoel et que Evenepoel va faire le numéro derrière et gagner, Laporte fait jamais deuxième. Eh oui, mais une course de vélo, c'est pas aussi simple que ça à analyser. Et pourquoi Christophe Laporte fait deuxième? Parce qu'il n'y a pas d'oreillette. S'il y avait eu des oreillettes, il n'aurait pas fait deuxième. Pourquoi? Parce qu'on aurait informé le groupe de 8 coureurs, enfin, ou 7 exactement, qui étaient derrière Evenepoel. On leur aurait dit, attendez, il y a le peloton qui revient, là, qui était à 2 minutes 20. Eux, ils étaient qu'à 1 minute et 4. Ils ont quand même perdu, tenez-vous bien, plus d'une minute sur les deux derniers kilomètres. Le groupe de contre derrière. Bon, s'il y a les oreillettes, on informe les coureurs devant. Attention, il y a le peloton qui revient avec Van Aert et compagnie. Là, au lieu de rouler à 14 à l'heure, eh ben on roule à 18 à l'heure, et ils sont jamais revus. D'où la réaction de Christophe Laporte qui dit « Je découvre que je fais deuxième après l'arrivée ». C'est-à-dire que s'il y avait les oreillettes, on faisait pas deux.
Bon.
Voilà, c'est clair. Et aujourd'hui, je vais le dire franchement, moi je pensais qu'il pouvait y avoir des miracles à Lourdes. Eh ben non, les vrais miracles... C'était en Australie. et bravo pour notre Français qui va chercher une médaille d'argent qui finalement récompense le travail de l'ensemble de l'équipe de France.
L'analyse de Cyril Guimard, ancien directeur sportif, qui nous livre son analyse sur les tactiques employées. Arnaud, je te laisse 3 secondes et demie pour me dire ce que tu avais à dire à la fin. Non. Bon. Alors t'as gagné le droit d'aller te reposer. Toi qui a été vaillant, qui nous a fait vivre.
Non, si je voulais dire, l'équipe de France avait le mérite d'y croire jusqu'au bout.
Et ben voilà. Et ben voilà. Merci beaucoup Cyril, merci beaucoup Arnaud. Tu vas te reposer maintenant. Tu files au lit.
Bonne sieste Arnaud.
Ouais. Et Cyril, toi, tu continues. On te retrouve tout l'après-midi, tout au long de l'après-midi sur RMC. On reviendra sur cette course en ligne des championnats du monde de cyclisme remportée par Remco Evenepoel à 22 ans seulement. On te retrouvera notamment, toi aussi, dans Bartoli Time, qui reçoit, je vous le rappelle, à partir de 19h, Christophe Laporte, notre Français, médaille d'argent. À tout à l'heure, Cyril. Vous ne bougez pas, l'Intégra Sport revient dans un instant. On est ensemble en direct jusqu'à 14h. On va reparler un petit peu de football et du Danemark, notamment. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport, Simon Dutin.
À 14h04, vous êtes bien sur RMC, c'est l'Intégral Sport qui se poursuit. On est ensemble en direct jusqu'à 15h en compagnie de Manu Amoros, notre consultant de la Dream Team RMC. Et vous le savez, à 56 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar 2022, RMC dédie son antenne ce dimanche à ce grand événement, à ce grand rendez-vous que vous suivrez évidemment, hein, RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Manu, t'es toujours avec moi ?
Ouais, je suis là.
Tout va bien. On va parler de ces Danois parce que pour la quatrième fois depuis 98, les Bleus vont affronter le Danemark en Coupe du Monde. Vous y ajoutez les confrontations lors des Euros 92, 2000 et puis les deux matchs de cette édition de
84, n'oublie pas.
84, les matchs de cette édition de Ligue des Nations, ça vous fait ce qu'on peut appeler une sorte de meilleur ennemi, hein, finalement, avec des fortunes diverses, hein, pour les Bleus en Coupe du Monde. C'est une victoire pour chacun, un match nul, et au total dans l'histoire des deux nations, c'est 17 rencontres, 8 victoires françaises, 7 victoires danoises et donc 2 matchs nuls. Vous aviez évidemment suivi. Donc autant dire que finalement, face aux demi-finalistes, surprise, hein, faut bien le dire quand même, du dernier Euro, les Bleus ne partent pas forcément, indiscutablement en tout cas, favoris. On verra si le match de ce soir nous apporte de vraies informations utiles avant la rencontre qui comptera vraiment, celle du 26 novembre prochain. Et puis ces Danois, finalement, on les connaît, on les voit jouer chaque week-end en club, mais on ne sait pas grand-chose de cette sélection. C'est pour ça, mon cher Manu, qu'on accueille un spécialiste dans l'Intégra Sport. Bonjour Frédéric Gernigon.
Bonjour les amis.
Frédéric.
Journaliste franco-danois pour le groupe BT Sport.
Exactement, grandi en France, papa français, maman danoise, mais ça fait 16 ans que je vis au Danemark.
Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation de RMC pour nous aider à y voir plus clair. Frédéric, l'équipe de France compose, on l'a rappelé, hein, toute la semaine, avec de nombreux absents par rapport à son groupe habituel et peut-être par rapport au groupe qui partira à la Coupe du Monde. Qu'en est-il du Danemark ? Est-ce que tous les meilleurs joueurs sont là ce soir face à la France ?
Comme ça, oui, le groupe est quand même pas mal au complet. Après, il y a des problèmes en attaque en ce moment avec une blessure de Jonas Wind, par exemple, qui joue à Wolfsburg, qui lui est pas là pendant un moment. Une blessure à déplorer, mais sinon, de façon générale, c'est quand même pas trop mal pour les Danois. C'est sûr que l'hécatombe chez les Français est bien pire.
Quel est le style de jeu, la formation préférentielle de cette sélection ? Quelles sont ses forces ?
Alors, le style a complètement changé. Il y a deux ans, un petit peu plus de deux ans, quand le sélectionneur a changé aussi. Avant, c'était hyper physique, des longs ballons contre vers les attaquants, comme Cornelius, que les Français connaissent bien, qui a joué à Bordeaux et qui a planté deux buts la dernière fois contre les Français. Ce qu'il faut dire, c'est que ça a complètement changé. Donc ça joue beaucoup en 3-5-2 ou en 3-4-3 avec trois défenseurs centraux et des pistons qui sont hyper offensifs. Pardon. C'est un jeu beaucoup plus dynamique, beaucoup plus plaisant qu'avant, on va dire. Et c'est une équipe aussi qui peut changer de système en cours de jeu et passer en 4-3-3 plutôt, avec bien sûr Eriksen qui est la plaque tournante de cette équipe que vous connaissez tous et que le monde connaît encore plus après son malaise. Bien sûr. À l'Euro il y a un an. Mais donc c'est une équipe assez plaisante à voir jouer et c'est vraiment un collectif hyper huilé et des joueurs qui aiment beaucoup jouer ensemble. Et donc c'est sûr qu'Eriksen c'est l'individualité en soi, mais les joueurs se subliment les uns pour les autres et du coup c'est ce que je pense est la plus grosse force de cette équipe là.
On reviendra dans un instant avec toi Frédéric sur les ces individualités, mais avant ça Manu, justement, c'est vrai que au dernier Euro, après nous avoir inquiété, hein, Frédéric le rappelait, avec le malaise de Eriksen, on avait été effectivement enchanté par ce style de jeu et notamment important, Frédéric, de rappeler le rôle de ces pistons. Et toi, forcément, ancien latéral, ça doit te parler.
Ouais. Alors, moi, j'avais une question pour Frédéric. Est-ce que le Danemark s'adapte à l'adversaire ou c'est plutôt un entraîneur qui fait jouer ses joueurs en fonction du schéma tactique que lui, il préfère? Et c'est vrai que... Excuse-moi, Fred. Est-ce que c'est vrai que, de toute manière, le Danemark a toujours eu des très, très, très bons joueurs. Ils s'expatrient chaque fois du Danemark. Ils viennent progresser dans les pays européens, que ce soit l'Espagne ou l'Angleterre ou l'Italie éventuellement. Donc il y a un style de jeu qui est vraiment propre, un style de jeu qu'aujourd'hui est beaucoup plus basé sur la technique que sur le physique. C'est pour ça que le Danemark est une équipe qui est beaucoup plus populaire, je dirais, que la Suède ou la Finlande ou l'Islande, même si c'est des petits pays. Mais le Danemark a toujours eu un football très agréable, et moi je me rappelle de l'Euro 92 où l'équipe de Danemark n'était pas invitée puisqu'il y avait la Yougoslavie. Il y a eu l'éclatement de la guerre en Yougoslavie et l'équipe du Danemark a été appelée au dernier moment. Et sans pratiquement d'entraînement de matchs amicaux, elle a gagné le tournoi. Donc voilà, c'est une équipe qui est très technique et très agréable à voir.
Ouais, c'est sûr que pour l'instant, en tout cas, sous Casper Juhlmann, donc le nouveau sélectionneur, c'est quand même une équipe qui s'adapte pas tant que ça à l'adversaire. Elle s'adapte bien sûr un petit peu, mais quand même souvent elle joue en 3-5-2 ou en 3-4-3, et ensuite si elle a un problème en cours de match, elle s'adapte. Mais en général, c'est plutôt ça, on va dire, l'idée de départ avec laquelle le sélectionneur y planifie la rencontre.
Ouais, et elle impose plus son jeu qu'elle le subit.
Elle essaye, mais après ça dépend aussi bien sûr de l'adversaire. Si elle rencontre un adversaire du calibre de la France qui, quand même théoriquement, tient mieux le ballon et qui a des joueurs de niveau supérieur, elle va faire ce qu'elle peut, mais elle essaye en tout cas d'imposer son jeu, quoi qu'il en soit. Après, c'est vrai que, oui, ce que je disais, c'est que ça dépend vraiment de l'adversaire et de l'équipe qu'elle a en face.
Frédéric Gernigon, journaliste franco-danois pour le groupe BT Sport et l'invité de l'Intégral Sport, il nous aide à décrypter un petit peu les forces, les faiblesses de cette sélection danoise. On en parlait il y a quelques instants. Évidemment, le totem de cette équipe, en tout cas le joueur à surveiller, c'est Christian Eriksen. Sans faire de mauvais jeu de mots, il y a une résurrection pour Eriksen, et là je parle simplement au plan sportif. Il avait retrouvé un niveau exceptionnel l'an dernier à Brentford, il a été transféré à Manchester United, et il est quasiment un des meilleurs joueurs cette saison. Il reste le maître à jouer, le joueur le plus décisif de cette sélection danoise.
C'est le joueur le plus décisif, mais il marque moins de buts que sous l'ancien sélectionneur. Il en marque toujours beaucoup, mais les tâches offensives sont quand même plus réparties dans cette équipe-là que par le passé. Mais après, c'est sûr que Eriksen, avec ou sans lui, l'équipe change beaucoup de visage. Moi, j'étais au stade au mois de mars, lorsqu'il a fait son retour en équipe nationale contre les Pays-Bas à l'extérieur. Il est rentré à la mi-temps, et évidemment c'était un moment hyper émouvant, mais il a complètement changé le jeu de l'équipe. Il a marqué au bout d'une minute aussi d'ailleurs. Donc c'est vraiment un joueur qui a une importance énorme dans cette équipe-là. Tout devient plus fluide quand il est sur le terrain. C'est le talent le plus pur de cette équipe-là, c'est le talent le plus naturel. Et du coup, c'est vrai que le Danemark, avec ou sans lui, c'est vraiment deux équipes complètement différentes. Mais il y a quand même plus de joueurs qui marquent aujourd'hui qu'il y en avait deux ans ou trois ans sous l'ancien sélectionneur.
En un mot, rapidement, Frédéric, si Eriksen, tout le monde le connaît, on connaît Simon Kjær en défense. Quel joueur méconnu du public français tu conseillerais de surveiller côté danois?
Alors, un joueur qui est devenu un gros chouchou depuis un an et demi, c'est Joachim Melle, l'arrière-gauche, qui en fait est droitier. Et cette position d'arrière-gauche a été un traumatisme pour les Danois pendant je sais combien d'années, parce qu'on n'arrivait pas à trouver un joueur qui avait la stature internationale, on va dire. Mais ce joueur-là, Joachim Melle, il a une caisse incroyable. Il fait des allers-retours sans arrêt. Il a mis 9 buts en 30 sélections, je crois, donc ce qui est quand même beaucoup, beaucoup pour un latéral. Après, c'est vrai qu'il joue piston, donc il est forcément un peu plus offensif que si ça jouait dans une défense à 4 derrière. Et après, il est assez méconnu aussi parce qu'il joue à l'Atalanta, mais il n'est pas titulaire en club. Il joue des bouts de match, il joue de temps à autre. Et en fait, les Danois comprennent vraiment pas pourquoi il joue pas, parce que il est quasiment toujours décisif en équipe nationale. Le match contre les Croates, récemment, qu'ils ont perdu 2-1, il a pas fait son meilleur match. Mais sinon, ce Joachim Mele, c'est vraiment devenu un chouchou des supporters danois.
Bon, Joachim Mele, on se souvient d'une ou deux passes décisives lors du dernier Euro, effectivement, très dangereux. Ouais,
il a
dangereux.
Fait un centre voilà. De l'extérieur du pied pour Dolberg contre le Pays de Galles, entre autres.
Ah, c'est ça. Frédéric Galligon, spécialiste du football danois, était l'invité de l'Intégral Sport. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et on surveillera, évidemment, cette sélection danoise. Dernier adversaire, faut-il le rappeler, des Bleus, avant la Coupe du Monde au Qatar. Merci beaucoup et à bientôt, je l'espère, sur l'antenne de RMC. Vous restez bien avec nous, Manu, tu restes évidemment avec nous, parce que on va commencer à s'intéresser aux autres adversaires des Bleus lors de ce premier tour, la Tunisie et l'Australie. Alors là, deux sélections qu'on connaît peut-être encore moins bien que le Danemark, et on sera évidemment aussi avec des spécialistes pour nous aider, vous aider les auditeurs à y voir plus clair sur l'opposition qui attend les Bleus au Qatar à la fin du mois de novembre. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport revient, on est ensemble en direct jusqu'à 15h, on arrive dans un instant sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Découvrez la nouvelle véranda panorama signée Rénoval et profitez de la pose à 1 euro. Voir conditions sur rénoval.com.
Rénoval.
Véranda, extension, abri de piscine.
Tu défends la paix, mais tu te bats pour un avenir propre avec une énergie made in Europe.
Tu vis en démocratie, mais tu refuses le compromis en matière de protection climatique.
Tu veux une Europe neutre sur le plan climatique? Les énergies renouvelables sont la solution. Chaque jour, de plus
en plus, de gens te rejoignent sur cette voie.
L'Europe, c'est toi.
Chaque soir sur RMC, Jérôme Roten sans flamme.
Salut, c'est Jérôme Roten. Roten sans flamme demain, 18h-20h sur RMC, avec le débrief du match des Bleus contre le Danemark, et je reçois un invité exceptionnel, Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes. Je vous attends demain à 18h pour Roten sans flamme sur RMC.
RMC, Roten sans flamme, 18h-20h.
RMC, Intégral Sport,
Simon Dutin.
À 14h16, c'est le retour de l'Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 15h en ce dimanche où RMC tourne son antenne vers la Coupe du Monde 2022. C'est dans 56 jours, déjà 58 pour le premier match des Bleus. Ce sera face à l'Australie, dont on parlera dans un instant. On vient de parler du Danemark. On est toujours en compagnie de Manu Amoros, notre consultant de la Dream Team. T'as été demi-finaliste, toi, du Mondial, Manu, hein ?
Deux fois. 82 et 86, c'est ça.
Et 86, tu avais été excellent, quatrième du Ballon d'Or. 86, je crois que depuis toi, il y a que Cafu, le Brésilien, qui a fait aussi bien au classement du Ballon d'Or à ton poste. C'est dire, les auditeurs, mais oui, allez voir des petites vidéos, des highlights Manu Amoros.
Même si le temps il passe vite, il faut aller voir les petites vidéos, c'est sympa.
Exactement, mais tu restes une référence dans ton couloir droit. Alors pas au niveau des tirs de pénalty. Hein.
Allez, ça y est, parce que j'en ai le coupé un de ma vie, et maintenant, et dis-moi, à 82, à 20 ans, Michel Hidalgo me demande, parce qu'il n'y avait personne qui voulait le tirer, il me demande si je voulais le tirer. J'ai dit oui, moi j'étais inconscient un petit peu, parce que demi-finale de Coupe du Monde, devant je sais pas combien de il y avait 50 ou 60 spectateurs, et je sais pas combien dans le monde entier. Mais bon, je me suis pas dégonflé, je suis allé. Hein. Tu sais, c'est celui qui ne tire pas, qui ne rate pas. Hein.
Eh oui, non, mais c'est ça, mais en plus, t'as inspiré, en plus, des générations de joueurs. Souviens-toi, Thierry Henry et David Trezeguet, qui se sont dit, Manu Amoros, il est bien allé, nous, on va y aller, contre l'Italie, en 98. Et ils avaient remporté leur tir au but. Alors, en cette journée où RMC dédie, je vous le disais, son antenne à cette projection vers le Mondial 2022, aujourd'hui, nous vous offrons avec Intersport le nouveau maillot de l'équipe de France de football pour supporter les Bleus. Un quiz vous attend à l'antenne. Roten. Ce sera à 17h50 autour de Christophe Cessieux. Vous envoyez bleu, B-L-E-U, au 7-32-16. Bleu, B-L-E-U, au 7-32-16. Et vous remportez le tout nouveau maillot de l'équipe de France. Je crois qu'il a été... les Bleus l'ont porté pour la première fois en match contre l'Autriche. Bon, il est assez classe. Certains regrettent que le bleu soit un petit peu trop foncé. Mais bon, il est quand même très, très élégant. Ouais. Et c'est un maillot... un maillot qui peut gagner ça, on le sent. En tout cas, vous envoyez bleu, je vous le disais, au 7-32-16 et vous venez
jouer. C'est plutôt la qualité des joueurs qui fait gagner les matchs.
Oui, le maillot. Tu sais, il faut se rattacher à tous les...
Oui, il faut se rattacher à tous
les signes. Exactement.
Alors... On va démarrer à vous, si tu veux aussi.
Oui, oh ben, à 4 millions, on n'a pas tous les moyens. Bon, je le disais, 58 jours avant l'entrée en liste des bleus au Qatar pour la Coupe du Monde, les bleus qui défendront leur titre remporté en 2018. Pour cela, il y a un premier tour un petit peu piégeux, on le rappelle, il y aura le Danemark qu'on affronte ce soir à 20h45, match à vivre en direct sur RMC. Il y aura également dans le désordre la Tunisie et l'Australie. Alors, pour y voir un petit peu plus clair sur ces sélections qu'on connaît sans les connaître, on fait appel dans l'Intégrasport à des spécialistes, et c'est pour ça qu'avant la rencontre du 30 novembre face aux Aigles de Carthage, on accueille Ahmed Adala, journaliste tunisien à Mosaïque FM. Bonjour Ahmed.
Bonjour à toutes et invités, à tous les chers auditeurs et les auditrices de RMC. Je veux commencer, avant de vous saluer, je veux commencer par remercier Frédéric, le spécialiste du football danois, parce qu'il nous a attiré l'attention sur le latéral Joachim Maïlé. On va faire très attention, on va en parler certainement aux joueurs et au staff.
Eh bien oui, c'est ça, ça sert à ça, hein, effectivement. C'est vrai qu'on n'avait pas prévu ça, en faisant le conducteur de cette émission, on n'avait pas prévu qu'on donnerait des infos aux autres adversaires des Bleus. Alors amène-nous. On s'est parlé cette semaine, t'es venu nous parler un petit peu de la Tunisie, c'était dans Génération After autour de Nicolas Jamin. Pour les auditeurs qui n'étaient pas là, merci d'avoir accepté notre invitation en ce dimanche. Sixième phase finale de Coupe du Monde pour la Tunisie, la deuxième consécutive après 2018. Un match, une victoire poussive cette semaine face aux Comores, je crois, 1-0. Une préparation qui va monter un petit peu en intensité parce que prochain adversaire des Aigles de Carthage, c'est le Brésil, mardi au Parc des Princes, et là ça va être une autre opposition.
Bah oui, ça va être une autre opposition. Nous en Tunisie, on est habitué à organiser des très grands matchs avant les campagnes, que ce soit la Coupe du Monde ou la CAN. Je me rappelle très très bien, par exemple, avant la CAN 94, on avait fait un nul face aux Pays-Bas, on avait fait un nul face à l'Allemagne, on avait réalisé une magnifique victoire contre la Bulgarie de Kostadinov. Excuse-moi, je vous rappelle d'un mauvais souvenir là, 3-0 en 93, mais quand même, on avait perdu d'autres matchs et c'était l'échec lors de la CAN 94. Nous, en Tunisie, ces grands matchs avant une très grande compétition comme la Coupe du Monde, on en fait très attention niveau supporter, niveau journaliste, parce que c'est trompeur. Parce que, par exemple, en 2018, on avait fait un nul face au Portugal, un nul face à la Turquie. On avait battu à l'Allianz Rivière à Nice, le Costa Rica de Keylor Navas. Mais après, c'était pas waouh lors de la Coupe du Monde 2018. Donc, à chaque fois, c'est un sentiment mitigé, parce que quand même on va affronter le géant du monde, le géant mondial, le Brésil, qui vient tout juste de battre le Ghana 3-0, même si le Ghana était vraiment très prenable ce jour-là, et le Brésil pouvait évidemment battre le Ghana même avec un très large score. Mais bon, on va quand même affronter le Brésil pour casser cette barrière de peur. Voilà, je le prends comme ça.
Oui. Le Brésil qui retrouve en plus des couleurs, parce que avec une armada offensive et des joueurs qui sont performants en ce début de saison partout dans leurs clubs respectifs. Pour les gens qui connaissent pas ou peu cette sélection tunisienne, quelle est sa formation préférentielle? Quel est son style de jeu?
C'est un 4-3-3 avec un jeu plutôt offensif. On avait battu le Japon. C'était notre première victoire face au Japon il y a quelques mois avec un dispositif 4-3-3. Mais je pense pas qu'on va quand même prendre peut-être le risque de jouer à 4-3-3 contre le Brésil ou même l'équipe de France lors du Mondial. Mais c'est plutôt un jeu offensif avec un milieu de terrain vraiment très très bien garni avec Issa El-Aidouni que vous connaissez certainement. Il était là face à Monaco il y a quelques semaines en Europa League avec Elias Sriri qui jouait à Montpellier, avec Ferjani Sessi qui joue au Qatar, avec Anis Beslimane qui joue à Brand B. On a un milieu de terrain qui est vraiment très fort, mais aussi avec des joueurs avec une tendance offensive, à l'instar du star de cette équipe nationale, le capitaine Youssef Lemsekni, un joueur que vous connaissez très très bien évidemment, Wahab El-Khazri, le deuxième meilleur buteur de l'histoire, dans l'histoire de la sélection, et le meilleur buteur actuel dans le groupe actuel de la sélection tunisienne. Mais on a aussi des atouts en défense, surtout lorsque, par exemple, si jamais le sélectionneur opte à une défense à 3, on aura certainement 3 axios, à l'instar de Lambron que vous connaissez évidemment. Mansar Talbi, nouvelle arrivée en Ligue 1 avec qui fait des très grands matchs, des très bons matchs avec Lorient. Et évidemment, il y aura d'autres solutions comme Bilal Rif ou autres. Évidemment, avec 2 latéraux qui ont plutôt un apport offensif, tels que Mohamed Draguer ou encore Ali Maaloul, la star de Ahly Masri. Ahly en Égypte, voilà.
Ahmed Adala, journaliste tunisien à Mosaïque FM, invité de l'Intégral Sport pour nous aider à connaître un petit peu mieux cette sélection tunisienne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Et puis bah de rien pour les infos sur le Danemark. Hein, c'est cadeau de la part de RMC. À bientôt sur l'antenne de RMC. Je le rappelle, France-Tunisie, ce sera le 30 novembre prochain lors du premier tour de la Coupe du Monde. Manu, on manque un petit peu de temps, donc je te demanderai une réaction globale sur ces deux adversaires méconnus. On va parler un petit peu de l'Australie. Ce sera le premier adversaire des Bleus, je le disais. Ce sera dans 56 jours hein, maintenant au Qatar. Et pour en parler, on accueille sur RMC Léo Lacroix, joueur suisse qui évolue au Western United. Vous l'avez compris, c'est dans le championnat australien. Bonjour Léo.
Bonjour, bonsoir, bonjour, Léo. Bonjour.
Ah oui, c'est bonsoir. Bonsoir.
Ouais,
bonsoir.
Là-bas.
Voilà, exactement, c'est bonsoir ici.
Il n'est pas couché, mais presque.
Quelle heure est-il ?
Là, maintenant, il est 22h25 ici.
Ah, ça va.
Bon, ça va. Ça va. Tout d'un coup, je me suis dit peut-être 4h du matin. Léo Lacroix, du coup, merci beaucoup de nous aider à décrypter un petit peu les contours, les forces, les faiblesses de cette sélection australienne. Il y a même des gens qui ne se doutent même pas qu'on joue au foot en Australie. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette sélection australienne ?
Non, alors déjà, vous avez dit juste, dans le sens que ici, le sport principal, c'est le football australien. Donc le football, ça vient au deuxième voire troisième plan après le rugby aussi. C'est une sélection. Bon, ça fait qu'une année que je suis ici, j'ai pas trop suivi, mais c'est une sélection. En Australie, on est beaucoup basé sur les stats. Donc ils se sont qualifiés après un barrage. Ils affrontent pas des adversaires comme la France peut affronter chaque mois ou pendant la Ligue des Nations. Donc c'est ça, je pense que ça sera une équipe qui s'est qualifiée, qui voudra se montrer, qui voudra faire quelque chose pour soi-même, pour eux-mêmes, pour le pays. Mais je pense que la France face à l'Australie, il y aura pas photo, je pense.
Manuel, t'inquiète cette sélection australienne ?
Oh, m'inquiète, non. Je crois que s'ils sont qualifiés, c'est qu'ils ont quand même une belle équipe, même s'ils sont qualifiés après plusieurs tours. Mais il va falloir être, la France va falloir être respectueux de toutes ces équipes-là et les prendre très au sérieux. Je crois que, de toute manière, Didier Deschamps plus son staff vont visionner énormément de vidéos sur ces équipes-là et en tirer le meilleur profit pour faire une équipe de France vraiment compétitive pour rencontrer ces équipes-là.
On rappelle que les Bleus avaient affronté déjà l'Australie au premier tour de la Coupe du Monde en Russie en 2018 et avaient eu toutes les peines à s'imposer 2-1.
C'est pour ça qu'il faut se méfier de ces équipes-là, parce que comment on ne les connaît pas énormément, viennent pratiquement jamais sur notre sol disputer des matchs amicaux et on connaît pas vraiment les vraies valeurs de cette équipe-là et surtout des joueurs, parce qu'il y en a très peu d'Australiens qui viennent jouer en Europe.
effectivement, fini les Viduka ou encore Tim Cahill qui brillait notamment dans le en première ligue. Léo Lacroix, joueur suisse qui évolue dans le championnat australien et l'invité de l'Intégrasport. Alors bon, cette sélection australienne, on en a parlé, on aura l'occasion d'en reparler. Mais un mot sur ton expérience, toi. Pourquoi l'Australie? Comment s'est passée ton adaptation? Est-ce qu'il y a un vrai amour pour ce qu'on appelle le soccer là-bas?
Non, alors ça s'est fait comme ça. C'était après ma dernière année de contrat à Saint-Étienne en 2020 où il y a eu le Covid. C'était compliqué de retrouver un club parce que voilà, on était tous dans le flou, on savait pas ce qui allait se passer. Du coup, je suis retourné à la maison en Suisse et au bout de 6 mois, ben le capitaine ici de l'équipe, Alessandro Diamanti, m'a appelé à travers d'une connaissance et il cherchait un défenseur central. Donc j'ai dit pourquoi pas à ma femme, allons en Australie, ça sera bien aussi pour la famille, pour les enfants, pour l'anglais et allons connaître quelque chose d'autre. Et ça s'est avéré que ça a porté ses fruits parce qu'on a été champion l'année dernière, on a fait une grosse saison. Et pour un club nouveau qui a été créé il y a 3 ans maintenant, donc non, c'est une super expérience. Ouais.
Western United.
Ouais. Léo, est-ce que le football là-bas, c'est plutôt basé sur la condition physique et le physique, ou c'est plutôt devenu maintenant un pays où on joue au football dans le collectif?
Alors, je suis arrivé ici, avant d'arriver, je veux dire, le capitaine m'a dit, Léo, si tu viens ici, pense pas que tu vas être en vacances. Faut courir. Ici, voilà, techniquement, c'est pas ce que j'ai vu en Ligue 1, etc. Ouais. Mais ça court, ça se bat, ça va sur tous les ballons, ça met la pression. Donc peut-être c'est ça que, voilà, je sais pas comment l'Australie va jouer contre la France, mais peut-être c'est ça que devra faire peut-être attention. Voilà, c'est joueurs qui ont faim, qui veulent se battre, qui veulent se montrer. Donc, mais techniquement, voilà, ça sert à rien de comparer chaque position, un joueur français et un joueur australien.
Ouais, ils vont compenser le physique par
exactement.
À la base de la technique, quoi.
Voilà, c'est beaucoup de gym, de force en gym, et beaucoup, c'est les stats, ouais. Les stats, c'est en entraînement, non, c'est si on doit courir 10 km à l'entraînement, c'est 10 km.
Ouais. Et dans les matchs, il faut gagner les duels.
C'est pas un de plus, pas un de moins. Voilà, il faut gagner les duels. Et c'est des équipes qui lâchent rien, même à la dernière. Donc, très bonne expérience en tout cas. Ouais, très bonne expérience.
Et on se souvient qu'en 2006, par exemple, les Italiens, futurs champions du monde, avaient failli chuter contre une redoutable équipe d'Australie dont il faut toujours se méfier. Merci beaucoup, Léo Lacroix, ancien joueur de Saint-Étienne désormais.
Merci.
Merci à vous. Avec
Western United. Merci d'avoir un petit peu veillé. Bon, pas trop, ça va, mais d'avoir accepté notre invitation dans l'Intégrasport pour nous parler de cette sélection australienne. Premier match des Bleus à la Coupe du Monde, ce sera le 22 novembre prochain. Merci beaucoup Léo et à bientôt sur RMC. Manu, tu restes avec nous, les auditeurs, vous restez bien sur RMC. L'Intégral Sport revient dans un instant. Ce sera l'heure de faire une petite parenthèse épique. À tout de suite sur RMC.
Sport. RMC Intégral Sport. Simon Dutin.
14h33, vous êtes bien sûr à RMC, c'est le retour de l'Intégral Sport. Nous, on est ensemble en direct jusqu'à 15h. Mais évidemment, l'antenne de RMC, toute la journée dédiée à la projection vers la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous n'oubliez pas votre nouveau rendez-vous également à 19h, Bartoli Time. Marion Bartoli, Jean-Christophe Drouet qui recevront aujourd'hui Christophe Laporte, notre Français, deuxième des championnats du monde de la course en ligne du côté de l'Australie. Dans un instant, votre liste pour la Coupe du Monde de 23, 24, 25, 26 joueurs, qui sait. On demandera à Manu Amoros qui a un petit peu bossé à la place du sélectionneur. Vous nous appelez au 32-16 pour confronter votre liste à celle de Manu. Mais en attendant, on fait un petit détour par l'hippodrome.
RMC, le défi hippique.
Et le défi hippique, c'est avec Fred Kita. Salut Fred.
Salut Simon, salut à tous.
Salut Fred.
Salut Manu. Aujourd'hui, on a un quintet qui se dispute à 15h15 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, donc réservé uniquement aux trotteurs. Ils seront 16 à s'affronter sur la distance de 2850 mètres, la grande piste. Et on a un nouveau parieur au 32-16, il s'agit d'Anthony. Salut Anthony, comment vas-tu?
Écoute, je crois qu'Anthony arrive dans un instant.
Bon, on va lancer. Alors, on va commencer par Manu.
On a peut-être un parieur, voilà, un consultant de parieur.
Au pire, le défi, ça sera contre Manu. Donc, Manu, est-ce que tu as un favori dans ce cas-là?
Ah ouais, moi j'ai un favori, Espèce de Liton, le 16, qui est à la limite des gains, puisqu'il est à peine à 1000 euros du recul. Il n'aurait pas pu participer c'est à ça. Cette course-là. Et je pense que Terry a dû préparer son cheval pour cette course.
C'est noté. Donc, il est à 9 contre 1 actuellement. Est-ce qu'on a Anthony?
Non, oui, c'est bon, pas de soucis.
Ah, Anthony, là. Salut Anthony.
Salut Anthony. Salut. Quel est ton favori ou ta favorite dans ce quintet?
Moi, ça sera le 14 qui est favori et qui, je pense, a une bonne carte à jouer.
Donc, French Way of Life, effectivement, à 5 contre 1. Du côté de la Dream Team des courses RMC, ça sera le numéro 11, Fougue du Delà, une concurrente qui est en forme et qui aligne les deux disciplines avec réussite, le 3 clés, le 3 monté, elle est à 9 contre 1 et elle devrait logiquement jouer un bon rôle également. Je rappelle
la
règle.
De performance à l'athlée, hein, beaucoup ont monté, mais pas à l'athlée. Hein.
Un peu moins, mais elle a quand même un succès. Voilà, il y a
t'as
pas
vu comment
longtemps.
Je te contrôle un peu. Hein.
Non, mais t'as raison, Manu. Mais bon, t'as vu son pilote, c'est quand même Alexandre Abrivard. C'est l'un des meilleurs à l'heure actuelle. Et je trouve qu'elle alterne les deux disciplines avec réussite. Donc pourquoi pas terminer sur le podium dans cette épreuve. Je rappelle la règle, si le numéro 14, French Way of Life, termine devant le numéro 11, Fougue du Delà, Anthony, tu seras de nouveau avec demain. Je te souhaite bonne chance, un très bon quintet.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Oui, c'est à moi. J'étais pas prêt pour la fin du jingle. Le défi épique, évidemment, que vous retrouvez tous les dimanches à 14h30 avec les spécialistes de la rédaction de RMC. Dans un instant, ça va être l'heure de nous donner votre liste. Manu, t'as eu du mal à la faire cette liste?
J'ai eu du mal. Il a fallu réfléchir un petit peu, quoi.
Merci, t'as réfléchi. Tu l'as fait en réfléchissant un peu. Bon,
oui, quand même.
La c'est liste quand même, de Didier Deschamps, ouais, qui devrait être donné le 9 ou le 10 novembre, nous a dit Jeannot Séguier tout à l'heure. Il faut pour cela se mettre d'accord évidemment avec le diffuseur officiel, à savoir nos amis de TF1, que Gilles Boulot trouve un petit créneau à Didier Deschamps dans son JT. Dans un instant, vous nous appelez au 32-16 pour confronter votre liste avec celle de Manu, mais je vous le disais, à 56 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar 2022, RMC vous fait gagner avec Intersport le nouveau maillot de l'équipe de France de football pour supporter les Bleus. Un quiz vous attend à l'antenne à partir de 17h50, ce sera avec Christophe Cessieux. Pour participer, vous envoyez Bleu, B-L-E-U au 7-32-16, Bleu, B-L-E-U le U au 7-32-16 et vous remportez donc le nouveau maillot de l'équipe de France. Il a été présenté il y a quelques jours et porté pour la première fois en match officiel par les Bleus. C'était face à l'Autriche cette semaine. Donc, comme promis, votre liste pour le Mondial. On sait qu'on aura droit donc jusqu'à 26 joueurs. La tendance, apprend-on ces derniers jours, ce serait que Didier Deschamps n'est pas l'intention de convoquer jusqu'à 26 joueurs.
Oui. Simon, la FIFA demande aux fédérations et aux sélectionneurs d'avoir combien de joueurs exactement, tu le sais ou pas, 26 ou 23? C'est quoi l'obligation?
C'est 23 minimum, me semble-t-il. Alors, tu me...
Ouais. Non, mais c'est parce que on parle. C'est vrai qu'on a parlé dans les journaux, on a même entendu que normalement ce serait une liste de 26. Mais est-ce que dans la réalité ça va être 26 ou 23? Je sais pas.
Ah ça, écoute, c'est une excellente question. 26, 26 me souffle 26. Notre excellent producteur Maxime Abolin.
D'accord.
Du coup, t'en as sélectionné combien?
26. Et pourquoi Didier Deschamps se passerait de 3 joueurs s'il veut faire 23?
J'avoue que je suis très étonné lorsque j'entends que Didier Deschamps n'a peut-être pas l'intention d'en appeler 26. Je ne comprends pas pourquoi se passer de solutions supplémentaires serait un avantage. Alors, on t'écoute, Thalys.
Alors, donc, 3 gardiens de but. Hein. Oui, moi, voilà. Je prendrais Mandanda, Lory et Maignan. D'accord?
Oui, bien sûr, je t'écoute, je te laisse dérouler.
Donc, je prendrai 5 défenseurs centraux, Dayo Upamecano, Jules Koundé, Raphaël Varane, William Saliba et Benoît Badiachil. Latéral droit, je prendrai Lucas Hernandez, Benjamin Pavard et Jonathan Clauss. Côté gauche, latéraux gauche, Théo Hernandez, Lucas Digne et Fernand Mendy. Au milieu de terrain, je prendrai Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Antoine Griezmann et Adrien Rabiot. Et les attaquants, je prendrai Karim Benzema, Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Oussam Ben Dembélé, Kingsley Coman et Thomas Lemar.
Alors vous êtes bien sur RMC dans l'Intégral Sport, hein. Vous n'êtes pas sur TF1, mais même si Manu a poussé le vice jusqu'à réciter la liste des joueurs qu'a Didier ah bah oui. Deschamps, hein. Franchement, il nous a fait ça bien.
Je pense que j'en aurais pas mal,
Manu,
quand même.
J'ai rêvé, Manu, ou il n'y a pas oui. de Kimpembe dans ta liste?
Non.
Non, j'ai pas rêvé. Il n'y a pas de Kimpembe dans ta liste.
Non, pas de Kimpembe, pas de Pogba. Kimpembe, bon. En ce moment, je le trouve, c'est un joueur alors qui est bon. Hein, faut pas non plus que c'est un super joueur qui fait des bonnes performances, mais c'est quelqu'un qui est assez impulsif. On le voit au Paris Saint-Germain, dès qu'il y a des soucis, des problèmes, soit il tacle très méchamment, il prend souvent des cartons rouges dans des matchs très importants. Donc j'ai préféré d'autres joueurs que lui. Bah, il faut faire des choix aussi, hein.
Ah ben c'est le principe d'un sélectionneur. Qu'est-ce qui a retenu mon attention dans ta liste? Oui, la présence de Thomas Lemar. Tiens, c'est intéressant ça, le joueur de l'Atlético Madrid qui.
J'ai trouvé que ouais. chaque fois qu'il a joué avec l'équipe de France, il n'a pas été mauvais, donc il a été bon. Donc voilà, moi je le mets dans ma liste. Et puis il y a aussi le fait défenseurs centraux, j'en ai que 5 parce qu'il y a Benjamin Pavard qui peut jouer quand même. Bien aussi
dans une défense à 3.
Ouais, défenseur central, et il y a aussi Jules Koundé qui peut jouer latéral droit aussi, hein.
Je donc, rappelle les défenseurs centraux, ouais. Upamecano, Koundé, Varane, Saliba, Badiachil, effectivement les latéraux Hernandez, Pavard, Klos, ça c'est côté droit, et à gauche l'autre Hernandez, ouais. Lucadine et Ferland Mendy. On va accueillir Étienne qui a fait le 32-16 dans l'Intégral Sport, qui lui aussi s'est prêté au jeu de la liste pour la Coupe du Monde. Salut Étienne.
Salut Étienne. Salut Manu, ça va?
Ouais, très bien, merci. Et toi?
Ah bah écoute, toujours en Bretagne, il fait toujours beau, hein, chez nous, hein.
T'es sûr? Hey, c'est le monde dans la mer, il pleut chez nous, il fait chez toi, il fait beau, c'est ça?
Voilà, faut venir chez nous en vacances, avec grand plaisir.
Hein. Ouais.
Du côté de Rennes, je crois.
Exactement, c'est ça.
Alors bah du coup, une pierre deux coups, Étienne. Qu'as-tu à répondre au sélectionneur Amoros? Et du coup, que lui opposes-tu? En quoi ta liste diffère-t-elle de la sienne?
Alors, je vais essayer de commencer. En fait, c'était déjà compliqué pour la faire. Hein. Franchement, j'ai trouvé que c'était très compliqué. Gardien, bon, grosso modo, s'il y a Lloris, tant mieux. S'il n'est pas là, alors moi, je suis un petit peu... J'aurais mis Areola. Ça, c'est mon choix, s'il n'y a pas Lloris en gardien. En défenseur, j'ai beaucoup aimé Jonathan Klose pendant son match. Il m'a impressionné. Je mettrais Pavard, Varane pour son expérience, puisqu'il a quand même de l'expérience, et puis Koundé. Au milieu, je mettrais Kamavinga, Tchouaméni, Kanté et Fofana. Et en attaque, je mettrais Mbappé, Griezmann, je ne sais pas si on peut le mettre, et Giroud. Et je ne mettrais pas Benzema, si voilà.
D'accord, mais il nous en manque un petit peu.
Oui, là, t'as fait la composition d'équipe.
Ouais,
t'as fait le 11 de départ du premier match, je crois.
J'ai fait le 11, j'ai pas mis les 23. On m'a dit, Étienne, tu fais ton 11, tu mets pas tes 23. D'accord. Voilà, moi, je fais mon 11. Et pour moi, ouais, ça serait les joueurs qui seraient susceptibles de pouvoir jouer ce que j'ai vu.
Dis-moi, Étienne, toi qui es de Rennes, tu es de Rennes?
Je suis de Rennes, mais je suis pour Paris.
Tu vas voir les matchs de Rennes. Mandanda, en ce moment, il est quand même pas mal.
Et il est bon, oui, mais après, voilà, c'est pas suffisant. Je pense que.
Ah, d'accord. Bah, voilà,
après, je suis pour Paris, vraiment perso, parce que je viens d'arriver sur Rennes, ça fait 10 ans, mais je suis un vrai Parisien. oui.
Étienne, rassure-nous, on n'est pas inquiet, mais Karim Benzema, tu ne le mets pas dans le 11, et c'est d'ailleurs un choix un petit peu surprenant, mais tu le mets dans ta liste quand même, tu l'emmènes au Qatar?
Je l'emmène au Qatar, mais perso, après Benzema, je suis pas trop fan. Malgré que ce soit malgré que c'est un très très bon joueur, je le cache pas. Mais franchement, je pense que Olivier Giroud, c'est vraiment un attaquant où on peut compter sur lui, où il peut mettre des buts à des moments décisifs. On le fait rentrer, il peut mettre un but. Il est toujours présent, il répond toujours présent, et j'adore sa mentalité. Mais vraiment, je trouve que c'est un gars il faut lui donner sa chance. Il a tellement galéré, il galère tout le temps et il est tout le temps là, il répond toujours présent. Et ça, c'est génial, en fait. On a besoin de ça, en fait, pour l'équipe de France. Voilà, ça, c'est mon avis et je pense que ça peut être un
après,
très,
ça va être
très
un
bon
choix
atteint.
Tactique aussi de la part du sélectionneur, comment il va faire évoluer son équipe avec Benzema
oui,
ou sans Benzema, quoi. C'est ça, surtout.
Il m'appellera et je lui dirai quelque j'entends. Et j'avais une petite question pour Emmanuel Amoros. Si
c'est Emmanuel Amoros, je crois, mais...
Ouais, c'est pas grave.
Oh, excuse-moi.
C'est pas grave.
À ce qui paraît, j'ai vu dans un entretien que tu donnais des conseils au prince Albert. Est-ce que c'est vrai?
Des conseils au prince Albert? Mais il y a un moment que j'en donne plus, parce que tu sais, à l'époque, quand je jouais à Monaco et que j'étais au centre de formation, quand je suis passé professionnel, il venait régulièrement s'entraîner avec nous. Il jouait latéral droit.
D'accord.
Parce que lui, il avait pas de pied gauche, malheureusement. Et je lui ai expliqué un petit peu de la manière comment il fallait se comporter sur le côté, sur le couloir droit, quoi. Oui, à l'époque, oui.
Est-ce que son latéral sérénissime était un bon latéral?
Question suivante, s'il te plaît. non, c'était un bon joueur, mais plutôt physique que technique.
Immense fan de sport, Prince Albert. Ouais.
Comme son papa.
De Monaco, effectivement. Le prince Rainier. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir fait le prince de chaise et d'être venu.
En tout cas, merci à vous.
Non, pas ta liste. Alors, la liste, hein, tu sors la prochaine fois, c'est plus que 11. Hein.
Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. J'aurai une liste de 50. Bon, merci en tout cas.
Demain, il pleut sur Rennes, n'oublie pas le parapluie. Hein.
Ouais, c'est ça. En tout cas, tu viens quand tu veux, avec grand
d'accord,
plaisir.
D'accord, c'est gentil. Merci.
Merci beaucoup, Étienne.
Allez, bonne journée à vous.
Au revoir, bonne journée.
C'est 56 jours seulement. Avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar 2022, 58 avant l'entrée en lice des Bleus, ce sera face à l'Australie pour la première rencontre du premier tour en ce dimanche 25 septembre. RMC dédie son antenne cet après-midi à ce grand événement qu'il sera à vivre évidemment en intégralité.
Tu sais Simon, on aurait dû faire la liste des joueurs qui vont au Mondial sûr, parce qu'il y en a, il y en a plus que la moitié, et on aurait dû faire peut-être cette liste et rajouter au fur et à mesure peut-être d'autres joueurs qui doivent se battre tout au long des un mois et demi qui restent pour pouvoir convaincre le sélectionneur.
Ben tu sais, en début d'émission, Jean-Noré Séguin nous disait tout de même que selon lui, tous les absents de ce rassemblement qui sont d'ordinaire convoqués par Didier Deschamps iront selon lui à la Coupe du Monde s'ils sont en forme . C'est
ça veut dire que Veretout, Guendouzi, Kouame.
Ça voudrait dire qu'aucun des joueurs qui ont été appelés en raison des forfaits n'ont une chance d'aller au Qatar.
Et c'est ça.
Peut-être qu'on aura malgré tout une ou deux surprises.
Comme d'habitude, hein.
Dans la dernière ligne droite. En tout cas, évidemment, vous, l'équipe de France, Benoît Boutron et toute sa team vous en parleront à partir de 15h intégral foot. À suivre dans un quart d'heure. Pour l'instant, nous, il nous reste quelques minutes en compagnie de Manu Amoros. Et d'ici 15h, on va revenir sur ce qui était un des grands événements sportifs du week-end, le Grand Prix MotoGP du Japon. Une 8e place pour Fabio Quartararo, mais qui n'est finalement peut-être pas un si mauvais résultat que ça. On vous explique tout dans un instant. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
À 14h49, vous êtes bien sûr RMC. La suite, la fin de l'Intégral Sport. Dans un petit peu plus de 10 minutes, vous retrouverez Benoît Boutron pour un Intégral Foot en ce dimanche 25 septembre. RMC dédie son antenne à la Coupe du Monde au Qatar 2022. RMC radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Vous ne raterez rien de la compétition sur notre antenne. Toujours en compagnie de Manu Amoros jusqu'à 15h donc. On a beaucoup, nous aussi, parlé de l'équipe de France. On rappelle ce match, 20h45 à Copenhague, Danemark-France. Le dernier match des Bleus avant justement l'entrée en lice dans la compétition. Jeannot Rességuier aux commentaires et le match à suivre en direct en intégralité sur RMC. Mais avant ça, c'est la promesse également de l'Intégral Sport. On ne parle pas que de foot. On est revenu sur la course en ligne des championnats du monde de cyclisme tout à l'heure, la victoire de Remco Evenepoel. On a vécu avec l'immense Morgan Mori en live le titre mondial de Hugo Boucheron et Mathieu Androdias. C'était en finale du 2 de couple des mondiaux d'aviron en République tchèque, les champions olympiques de Tokyo, qui ont donc confirmé qu'ils étaient bien les meilleurs. Place maintenant un petit peu de MotoGP. On va mettre les gaz avec notre spécialiste Paul Lafitte. Salut Paul.
Salut Simon, salut Manu, bonjour à toutes et à tous.
Alors, un décalage horaire oblige, c'était très, très, très tôt ce matin, ce Grand Prix du Japon. Avant cette course, Fabio Quartararo n'avait plus que 10 points d'avance hein, seulement au classement général des pilotes sur son rival, Bagnaia, le pilote Ducati. Raconte-nous un petit peu cette course, je le disais, Quartararo, 8e seulement de la course, et finalement, pas une si mauvaise opération pour le pilote Yamaha.
Ah oui, on peut même dire, Simon et Manu, que c'est une excellente opération, car avant ce Grand Prix, Fabio Quartararo, tu le précisais, avait seulement 10 points d'avance, hein, une avance qui a fondu comme neige au soleil. On se rappelle qu'au soir du Grand Prix d'Allemagne, lorsqu'il s'était imposé sur le Sachsenring et que Pecco Bagnaia, eh bien, avait chuté dès le deuxième tour de course, Fabio Quartararo comptait 91 points d'avance. Et depuis, eh bien, le leader de chez Ducati a empilé les succès, 4 succès de rang, une deuxième place la semaine dernière, battue vraiment sur le fil par Enea Bastianini, et on s'attendait sur un circuit typé aujourd'hui pour la Ducati et bien de voir Pecco Bagnaia s'imposer encore une fois, truster la première, deuxième voire troisième place. Et en fait le scénario s'est inversé, tout d'abord en raison des qualifications hein, Simon, parce que elles se sont déroulées sous une piste détrempée, et à la surprise générale, c'est d'ailleurs Marc Marquez qui avait signé la 60e pole position de sa carrière, et on retrouvait les leaders du championnat, Quartararo en 9e position, Pecco Bagnaia relégué au 12e rang de la qualification, et Aleix Espargaro, le 3e larron hein, dans la course au titre, était lui en 6e position, et effectivement on s'attendait à voir Pecco Bagnaia remonter rapidement, et en fait le scénario de la course a été tout autre hein, puisque c'est son coéquipier chez Ducati Jack Miller qui a survolé la course, et Pecco Bagnaia est resté englué à la 11e place de ce classement général. Il a bataillé dur avec Enea Bastianini qui le rejoindra l'année prochaine chez Ducati. Et les deux pilotes étaient en 10e et 11e position, alors que Fabio Quartararo était lui 8e. Et on s'attendait à un moment donné à ce que Pecco Bagnaia revienne sur Fabio Quartararo. C'est ce qui s'est passé, mais ça a été un dernier tour de dingue. Et on le rappelait ce matin dans les GG du sport, un dernier tour de dingue, puisque à l'aspiration, avec 10 km/h de plus sur sa Ducati, eh bien, Pecco Bagnaia a dépassé Fabio Quartararo dans l'ultime tour, à 2 virages de l'arrivée. Mais sauf qu'il est arrivé au nez et à la barbe de la Yamaha de Fabio Quartararo, et il a perdu l'avant, et il a donc chuté. Il a d'ailleurs failli emporter avec lui hein, le pilote tricolore. Fort heureusement pour Fabio Quartararo, eh bien, il est resté à cette 8e place, et qui lui a permis de glaner 8 points supplémentaires au classement. Un 0 pointé pour Pecco Bagnaia, un 0 pointé également pour Aleix Espargaro, qui lui a terminé dernier parce qu'il a dû changer de moto avant le début de la course, et a donc été relégué dans les stands pour le départ. Donc on peut dire effectivement que c'est une excellente opération pour le pilote niçois dans la course au titre, même si Simon, rien n'est encore jouer à 4 courses de la fin de ce championnat.
Avec, tu le rappelais ce matin dans les grandes gueules du sport, effectivement, 4 courses et 2 circuits qui, a priori, conviennent mieux à la Ducati, et 2 qui sont un petit peu plus sinueux, tortueux, et qui conviendraient donc mieux à la Yamaha. Manu, on sait que ouais, tu es un immense amateur de sport, que tu regardes ouais, tout. Bien, ouais. Qu'est-ce que tu as... Oui, presque tout.
Ouais,
qu'est-ce que tu as pensé
ouais,
de cette arrivée?
Ouais, moi, Quartararo, bien sûr... est passé entre les gouttes hein, parce que pas évident de partir de 9e sur la ligne, et puis avec les autres derrière, c'était pas évident. Mais Johan Zarco, qui est parti en première ligne, il finit quand même que 11e avec une Ducati, c'est quand même incroyable, non? Il n'y arrive pas avec sa Ducati, ou il y a un problème sur sa moto?
Non, Manu, Zarco est toujours assez saignant en séance de qualification, hein, preuve à l'appui hein, sur les 16 Grands Prix. Il s'était lancé à 11 reprises, ou en première ou en deuxième ligne, mais il n'arrive pas à, passez-moi l'expression, hein, pour tous les amoureux d'Ovalie, il n'arrive pas à transformer l'essai. En course, c'est de plus en plus difficile. Il a perdu confiance, parce que lorsque l'on voit que les Ducati marchent, hein, que ce soit les Ducati officielles de Jack Miller ou de Pecco Bagnaia, ou encore la Ducati du team Pramac de Jorge Martin, qui a terminé sur le podium, sans parler évidemment des 4 victoires cette saison pour Enea Bastianini, qui lui aussi court sur une Ducati du team Gresini. On ne comprend pas pourquoi Johan Zarco n'arrive pas à transformer cet essai. Certainement un blocage psychologique pour le pilote français. Mais lorsque l'on parle psychologie, et on l'évoquait encore une fois ce matin dans les grandes gueules du sport, on s'aperçoit que Pecco Bagnaia a certainement perdu beaucoup dans cette chute aujourd'hui, car même si rien n'est fait, un 18 points en classement, lorsqu'il y a encore 100 points à distribuer d'ici à la fin de la saison, on peut penser que Bagnaia pourrait revenir, mais en tout cas, ce
ce zéro pointé va lui faire très très mal, car au classement il ne marque rien alors qu'il était sur une superbe dynamique. Et Fabio Quartararo, lui, avec son mental de fer, eh bien est en train de limiter la casse, hein. C'est ce qu'il fait depuis maintenant plusieurs Grands Prix. Il n'a plus la machine aujourd'hui pour aller tutoyer les sommets, pour gagner des courses, mais il marque des gros points. Ce matin, il en a marqué 8. Alors, c'est un classement indigne pour un champion du monde en titre. Mais lorsque l'on voit ses principaux rivaux pour le titre, eh bien, chuter ou alors terminer bon dernier, comme l'a fait Aleix Espargaró sur son Aprilia, on se dit que le Français peut être en route pour un deuxième sacre. Même, comme tu le rappelais, Simon, des circuits comme la Thaïlande ou encore comme Valence en Espagne devraient normalement avantager la Ducati. Mais avec ce diable de Fabio, on peut s'attendre, et en tout cas, on l'espère tous, sur RMC et ailleurs, à avoir le meilleur pour El Diablo, le champion du monde en titre.
El Diablo, tu fais bien de le rappeler, le surnom du pilote français Yamaha, champion du monde en titre. Merci beaucoup Paul Lafitte, et à très vite sur l'antenne.
Salut Simon, salut Manu, bon après-midi.
C'est l'Intégral Sport, c'est terminé. Merci beaucoup Manu.
Merci Simon, merci à tous.
Et à très vite sur l'antenne de RMC. Dans un instant, l'Intégral Foot et l'Intégral Foot avec le Eliud de Kipchoge de la rédaction de RMC, Benoît Boutron. Salut.
Salut Simon.
T'as vibré ce matin à Berlin.
Ah voilà, j'ai vibré mon vieux. Voilà.
Mais record du monde, précisons-le, du Kenyan.
Record du monde, 2h01 et 9 secondes. Je suis un peu déçu pour lui tout de même. Je pensais qu'il arriverait aux 2h, passer sous les 2h01, tu vois. Et je pense que lui aussi a une pointe de regret.
Bon, bah, tira lui dire. Ouais.
On l'a vu dans RMC Running. On vous conseille d'écouter cet excellent podcast, évidemment. C'est le premier numéro de la saison dernière, mais bon, vous pouvez y aller. N'hésitez pas si vous aimez la course à pied. Ayez le bon réflexe.
Et pour ceux qui aiment le foot,
vont retrouver Jérémy Ménez pendant 2 heures. Et oui, il fait partie de la Dream Team RMC, évidemment. Vous l'entendez régulièrement dans Rotten sans flamme. Jérémy qui sera avec moi jusqu'à 17h. Beaucoup d'équipes de France au programme avec Fabrice Hawkins en direct de Copenhague. On va parler du contexte autour de cette équipe de France. Est-ce que les affaires peuvent nuire aux Bleus pour la compète, évidemment. On parlera du cas Olivier Giroud. Est-ce qu'il s'est de nouveau rendu indispensable, évidemment, dans cette équipe. Et puis vous aurez la liste de Jérémy à 15h40. Vous pouvez venir vous confronter à lui, justement, quel joueur vous voulez voir au Qatar. N'hésitez pas, on vous attend. 32-16 direct studio et hashtag RMC Live. À tout de suite sur RMC
Intégral Sport.